18h, 20h, Fou de sport. Avec Mohamed Marouf sur Beurre FM.
Bonsoir, ravi de vous retrouver comme chaque dimanche 18h, 20h sur Beurre FM avec en deuxième heure un événement exceptionnel puisque nous allons prendre la direction du Sahara, le Tassili à Agar et le Tassili Nadjer ainsi que le super bike du Hoguer en 2023. Deux dates importantes dont l'un c'est les 100% féminins, c'est dès le mois de novembre prochain. En tous les cas, restez à l'écoute puisque nous aurons trois personnes importantes pour vous parler de ces deux événements majeurs à travers le désert algérien. En attendant, cette première heure sera consacrée, comme le veut la tradition, au football. Et bien entendu, on va parler de l'actualité du foot, à savoir les différents championnats, les Coupes d'Afrique, etc., les qualifiés, les... Généralement, sur les premiers résultats, tout se passe plutôt bien pour les pays, pour les équipes nord-africaines. Et puis, en même temps, on reviendra sur le énième feuilleton Youssef Belaïli. Voilà, et on va se poser la question, y a-t-il un début, y a-t-il une fin ?
Jusqu'à 20h, Fou de sport sur Beurre FM.
Bon. Vous l'écoutez tous les matins, dans la tranche du matin, si vous êtes vraiment bien réveillé, c'est Fodil. Bonsoir Fodil.
Bonsoir Mohand, bonsoir coach, bonsoir à tous.
Bon, il a passé une semaine à entraîner les anciens footeux, hein, bah oui. Il faut bien qu'ils préparent leur diplôme. C'est notre coach national, monsieur Nasser Sandjak.
Oh Mohand, t'es de plus en plus charmant quand tu me présentes un truc de ouf. Et toi, tu es l'idole de toute l'Algérie, toi, tu le sais.
Ah bon ?
Ah oui, bien sûr, moi je te le dis. Hein.
Oui, c'est-à-dire que même au pays...
Oui. Il y a beaucoup de gens qui te connaissent. Mais comme on fait de la radio, t'as vu hein. Il faut que tu passes plus sur les trucs Facebook, les...
Oui, je suis pas très...
C'est pas sa tasse de thé.
Ouais, il a raison, Fodil, en plus. Hein.
Fodil, par contre, on le voit...
Bon... Travail, hein. Non, Fodil, il faut le dire... C'est Fodil High Tech, tu rajoutes à côté
High Tech.
Ben oui, haute technologie, bien sûr.
C'est ça, c'est
oui.
Ça.
Bon, messieurs, on va faire la semaine sportive en actu, puisqu'elle était chargée, hein, n'est-ce pas ? On y va pour le jingle.
Fou de sport. La semaine sportive.
Dimanche dernier, on avait parlé de énième rebondissement dans le feuilleton Belaïli. Et pendant la semaine, au moment où on s'était dit, ça y est, c'est fini, et boum, ratapla, on sort le mot Joker, etc. Et tout, et on retrouve Youssef Belaïli à l'AC Ajaccio. Il signe. Ensuite, il explique dans une interview. Alors là, je n'ai pas compris. Donc, il a choisi une chaîne comme d'habitude. Et l'interview, Youssef a parlé en arabe parce qu'il ne pouvait pas s'exprimer vraiment en français. Et du coup, on a même mis un traducteur. Il a expliqué qu'à Brest, il était malheureux sans sa famille et que ça jouait sur son moral parce qu'on lui a promis qu'une fois installé, sa famille allait le rejoindre, ce qui n'a pas été le cas. Et puis vivre seul, même si vous êtes un footballeur, vous touchez beaucoup d'argent. Mais quand l'entourage vous manque, eh bien, ça peut avoir des conséquences néfaste notamment sur le rendement. Faut-il m'avait même dans la semaine m'envoyé ce qu'on appelle des petits teasing comme ça sur Belaïli et pour finalement du concret.
Il se sent avéré.
Juste,
voilà. Ouais.
Mais est-ce que tu as été surpris toi justement par le fait qu'il quitte la Ligue 1 pour revenir en Ligue 1?
Non, pas du tout, parce que déjà c'est un bon challenge pour lui. Ouais. Je pense que c'est sa dernière chance. D'ailleurs, il devrait la saisir pour un joueur âgé de cet âge-là. Et 30 ans exactement. Et je pense que là, c'est le moment aussi de remercier Andy Delar apparemment qui a joué un rôle très important pour que l'Ajaccio le fait signer. Et j'espère déjà que il pourra exprimer ses capacités et son talent pour une fois. N'oublions pas qu'il a signé dans un club du même standing que Brest.
Qui est toujours bon dernier après avoir été balayé cet après-midi
4-1 par Nantes. Et Kim devrait être très content demain.
Kim, ton équipe a gagné.
Voilà, pour une fois, un petit clin d'œil aussi à Kim, au cas où nous écoute. Et espérons qu'il pourra quand même confirmer. Et quand il dit Je suis tout à fait, bon, moi, je pense que je suis tout à fait d'accord avec lui quand il dit que ma famille me manque. Bon, ça, on peut comprendre parce qu'on
il a surtout beaucoup parlé de sa petite fille qui lui manquait beaucoup.
Espérons que sa famille sera présente à Ajaccio pour qu'on puisse voir si c'est vraiment le cas, si c'est sa famille. Mais quand on regarde aussi les autres joueurs qui partent, qui émigrent dans les grands clubs et sans famille, sans rien du tout, et qui partent dans l'inconnu et qui réussissent, je pense que c'est pas un justificatif à adresser, surtout devant les journalistes.
La question qu'il faudra poser, c'est surtout à cette vague de joueurs sud-américains qui défraient comme ça sur l'Europe. Souvent, ils arrivent célibataires.
Sans repère aussi.
Sans repère, et puis ils prennent le temps de s'adapter, etc. Puis après, ils finissent par construire leur vie. Coach.
Moi, je suis très perplexe quand je vous écoute. Je suis...
On essaie juste de comprendre le.
Oui, mais bon.
C'est factuel, là, c'est ce que nous vivons avec Bélaïd.
On est en 2023. Les activités hors football, il y en a partout. C'est pas comme dans les années 70, 80. Non. Où tu avais ta maison et tu bougeais pas. Là, aujourd'hui, les garçons bougent. Il faut savoir que les joueurs pros, ce ne sont plus des chérubins qui restent à la maison et qui attendent. Ce sont des gens qui ont une autre vie en dehors du football. Ils sont par la pub, la photo, plein de
choses. Ça, oui.
Ils sont là-dedans. Ils sont tous là-dedans, donc ils n'ont pas beaucoup de temps. Que tu n'aies pas amené ta famille pour X raisons, bon, je vais être gentil, je vais dire oui, mais on est en 2023. Les papiers, ce n'est plus un problème pour ça. Que ta famille vienne, ce n'est pas un problème. Mais du tout. Mais quand j'ai du tout, surtout en France, quelles sont les raisons pour que ta femme ne vienne pas avec ton enfant? En sachant que tu as un club pro, tu as un joueur pro, et on a besoin de t'amener ta sécurité, qui va te dorloter, tu vas être bien. Et quand tu vois ça, j'y crois pas, moi, tout ce que j'entends. C'est pas... Il y a d'autres paramètres qui sont en ligne de compte. Il y a sa production, il y a son jeu. Il est en Ligue 1, tu joues. T'es bon, tu joues, t'es pas bon, tu joues pas. Faut bien être clair. Et on te donne la chance, 2, 3, 4 chances, il y a un moment, tu te mets sur le banc et c'est fini.
Tu n'es pas ce qu'on appelle le titulaire indiscutable.
Ben oui, quand tu veilles, ben ton entraîneur n'a plus confiance en toi, donc t'es mort. Donc après, tu inventes ça perd l'hypopète de choses que tu peux produire en dehors du football, fait que ça te revient. Donc tu organises une sortie, quoi. Moi, j'appelle ça une organisation d'une sortie. Donc il est sorti, il faut qu'il minimise le problème. Donc il va
nous dire. Il faut savoir aussi que sa famille n'était pas présente à Brest.
Ouais, c'est ce qu'on dit. Si,
c'est pas ce qu'on dit. Ça a été confirmé aussi par les dirigeants de Brest.
Oui.
Et c'est pour X raisons, on peut pas rentrer dans les détails. On n'a pas les informations nécessaires déjà pour en débattre, mais il faut savoir que Belaïli se retrouvait seul à Brest.
Oui, mais pourquoi? C'est pas le monde entier, les joueurs amènent leurs femmes aujourd'hui, c'est
Non.
C'est plus un problème pour les clubs.
Non.
On ta famille, on te la ramène tout de suite, il y a même pas photo.
Non, il y a des joueurs, par exemple, qui sont partis en Espagne ou qui sont partis dans d'autres championnats et au début, ils n'ont pas leur famille. Je peux te citer un petit exemple. Non. Karim Benzema, quand il est parti au Real Madrid, il n'y avait personne. Non. Il s'est retrouvé tout seul dans un groupe professionnel.
Non, on n'est pas des fous.
C'est ce qu'il avait dit lui-même.
Oui, mais après, on connaît les vérités. Il faut pas. Quand tu viens, tu t'installes, tu laisses un laps de temps déjà avant de ramener ta famille. Tu vois pas le jour où tu signes, tu ramènes ta femme et imagine qu'au bout de 2 mois, ton contrat est cassé, tu ramènes les enfants de l'autre côté. Il y a une priorité, c'est les enfants, l'éducation, l'école. C'est ça la priorité des parents quand ils s'en vont à l'extérieur dans des coopérations. Ils ne peuvent pas emmener leur femme comme ça du jour au lendemain. Si sa femme, Abelie, a des enfants, ils sont scolarisés à l'école, c'est compliqué de les ramener ici pour ça. Donc c'est pour ça qu'ils cherchent des écoles, souvent. Tu vois, des écoles françaises qui parlent, ou des écoles américaines, ou des écoles. C'est surtout ça pourquoi il y a un laps de temps. Chaque fois, c'est ce problème-là qui est en place.
En tout cas, entre la déclaration de Youssef Belaïli et celle des dirigeants de Brest...
Il y a une différence ?
Non, il n'y a aucune différence. Ils tiennent les deux parties tiennent le même discours.
C'est très bien.
Ouais. Ben, tant mieux. Je préfère entendre ça que tout ce qui a été dit un peu partout. Enfin, maintenant, c'est le terrain qui va parler. Aujourd'hui, le Nobé, il a joué un quart d'heure lors du déplacement à 3. Où ils ont fait match nul, un partout. Il est rentré à 15 minutes de la fin du match.
Voilà. C'est
Belaïli, ouais.
Ils ont fait quoi, Ajaccio?
Un partout, à 3.
Ah oui, ouais. Bien.
C'est une bonne chose parce que déjà, il reprend la compétition, sachant que nous avons 2 matchs amicaux prochainement en sélection. Peut-être il sera convoqué parce que s'il est compétitif, je pense qu'il aura sa place dans le groupe. Je dirais pas qu'il aura sa place en tant que titulaire indiscutable, mais il aura sûrement sa place dans le groupe. Et c'est une bonne chose pour lui. Espérons que maintenant il saisira sa chance et qu'il arrête quand même de trouver des excuses ou des prétextes qui vont l'empêcher de s'épanouir dans cette nouvelle aventure.
Mais j'ai eu notre ami Mohamed Amin qui me dit
que
c'est un problème de visa qui a eu lieu pour Brest et comme par hasard, en Corse, il n'y a pas de problème de visa. Le préfet intervient. T'as vu, c'est Tchatchoukal, j'ai rien même là-bas. Même ici, il y a ça.
Non, mais ça fait rire, ça.
Ouais. Ah, ben oui. Ouais, tu te rends compte, visa.
Ouais, c'est pas les mêmes.
Non, mais il ne faut pas oublier aussi que l'État français a commencé à délibérer les visas pour les Algériens. Avec la visite d'Elisabeth Borne, oui, il y a un assouplissement qui a suivi juste derrière.
Oui, mais il ne faut pas confondre de visa pour le touriste.
Oui, c'est ça.
Pour les gens et les gens qui travaillent en France en coopération. Qui veulent
mais c'est difficile pour tout le monde. C'est difficile pour. Si, écoute, moi je suis Algérien, je suis venu ici, je sais de quoi je parle.
Mais tu n'es pas footballeur professionnel, faut
dire. Non, mais je ne parle pas, je parle d'une manière générale. Même ceux qui viennent s'installer. Oui, mais c'est facile de parler. Oui. C'est facile de parler d'un extérieur. Mais je parle aussi des gens qui viennent pour s'installer dans un contrat de travail.
Oui.
Ça veut dire un joueur de foot, quand il vient pour un contrat de travail.
Bien sûr.
Voilà. Et c'est difficile pour tout le monde. C'est difficile pour tout le monde d'avoir un visa. Cite-moi par exemple des Algériens qui ont réussi à venir avec un visa déjà, pour un visa d'installation, pour travailler. C'est difficile. C'est pour ça que Brest, peut-être, ils n'ont pas réussi à avoir un visa pour sa famille.
Tu crois ça? Pour un joueur de première division, de Ligue 1,
oui.
Qui prend 400 000 euros par mois. Il a pas de visa, mais faut dire pour rester tranquille là.
Non, c'est pas ça.
Employé qui vient travailler ici pour un X emploi et qui vient avec un visa d'installation, le temps.
Non, sauf que c'est facile de parler, mais est-ce que vous connaissez la procédure derrière?
Oui, je la connais bien moi. J'ai un ami qui est juriste dedans, il fait son boulot en plus.
C'est difficile et pourtant c'est difficile pour tout le monde et que en plus vous le savez, vous êtes algérien que.
Non, pour les gros salaires, pour les salaires qui sont incontournables.
Lui, il a réussi à avoir son visa, mais sa famille, non.
Tu sais que t'as des visas d'exception, on appelle ça.
Non, mais
j'ai des visas d'exception.
Non, oui.
Ou des gens d'exception.
Oui, je
sais. C'est considéré.
Oui, ça,
c'est pas Faudil.
Oui, mais
c'est
je sais.
Bélaïli.
Oui, et alors
lui, comment il est alors?
Lui, il l'a eu, mais sa famille, non.
Mais si, il l'a eu là. Oh.
Mais je parle quand il était à Brest.
Oui, mais pourquoi il l'a pas eu?
Voilà. Parce qu'il y a des raisons.
Pourquoi il l'a à Ajaccio? Ouais. Je comprends pas.
Non, mais moi, je peux pas.
C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Un préfet, ça reste un préfet. Oui.
On parle pas de préfet, mais vous parlez de préfet pour rien. Le préfet, il a pas à intervenir dans cette histoire.
Comment ça?
Si.
Est-ce que c'est le préfet qui délivre les visas? Est-ce que c'est le préfet qui délivre les visas? Répondez-moi.
Oui, c'est lui qui les signe.
Oui.
Comment ça, c'est lui qui les signe? Non, c'est pas un préfet qui signe les visas. C'est quand on fait une demande de visa, ça, on trouve pas la signature du préfet dans le visa. Il faut se rendre à l'évidence quand même.
Non, mais je te dis, c'est les préfets qui interviennent. Ils interviennent.
Voilà. Va me dire que c'est lui qui signe.
Et crois-moi, ça va très vite.
Ah, mais ici,
Belaïli, il a été en Brest, ils ne l'ont pas donné, soi-disant.
Non, mais s'il signe.
Ils l'ont donné.
Mais il ne faut pas me dire qu'il signe. Non, mais il faut pas me dire qu'il signe ou qu'il intervienne.
Ils sont en Corse déjà. Sa famille sont en Corse.
On a vu sa petite fille.
Oui.
Non, mais il ne faut pas me dire que c'est le préfet qui signe ou quelque chose comme
ça. Il intervient.
Le préfet intervient uniquement pour un titre de séjour. Il ne peut pas intervenir au-delà.
Bien sûr, sur le visa aussi. Bien sûr. Bien sûr. Préfet, c'est le représentant de l'État, de la République française.
D'un département.
C'est comme le
Wally. D'un département. Voilà. D'un département.
Mais la Corse, c'est un département.
Oui, je sais bien que c'est un département.
De Brest, Armorique, je ne sais plus comment on emploie le terme exact, le Finistère.
C'est le Finistère, exactement.
Voilà.
Finistère.
Et ben, le préfet, c'est comme le Wally. Il a le pouvoir de l'État. Il est représenté par l'État.
Et oui, il représente l'État.
Il a le pouvoir sur l'administratif.
Il représente en plus le ministère de l'Intérieur.
En plus. Bien sûr.
Très bien. On a compris là-dessus, vous n'êtes pas d'accord sur cette histoire de Belaïli. Après, je vais vous piquer sur un sujet après la pause, un sujet très intéressant puisque c'est une déclaration de Slimani sur les binationaux. Il déclare que, écoutez, finalement, lui, il a dit tout ce que la plupart pensent tout bas. Grosso modo, les joueurs issus de l'immigration... l'équipe nationale, n'est pas une obligation, on force la main à personne. Celui qui vient, il vient avec son cœur, comme on dit, bienvenue, marhababé. Celui qui n'a pas envie, il ne faut pas non plus leur en vouloir parce qu'ils ont, un plan de carrière autre que celui de l'équipe d'Algérie. Donc je trouve la déclaration intéressante. C'est ce que nous allons discuter juste après cette première pause.
Foot de sport, revient dans un instant sur Beurre FM. Jusqu'à 20h. Sur Beurre FM.
Bon, souhaitons à Belaïli de bien finir sa saison. Quoique bientôt il va l'arrêter puisque la Coupe du Monde arrive à grands pas. Maintenant, messieurs,
c'est dans... Il n'est pas qualifié, lui.
Non, mais même, il
va toujours que... s'entraîner. Hein.
Oui, c'est ça. Mais dans un mois, ça y est, la Coupe du Monde commence. Nous sommes aujourd'hui le 16, donc ça commence le 18 ou le 19 novembre prochain.
Pas dans un mois, parce qu'il y aura, il y aura la préparation de la Coupe du Monde aussi, non ?
Oui, non, mais attends.
Il n'y a pas de préparation. Il y a une semaine,
si tu veux.
On va dire pas dans un mois, dans trois semaines.
Oui, voilà. Oui, tout ça, parce que sur les matchs internationaux, on y reviendra peut-être tout à l'heure en fin d'émission. Éventuellement, parce qu'on parle d'un match délocalisable pour l'équipe d'Algérie du côté de la porte Océane au Havre. Mais je reviens d'abord sur cette déclaration concernant les binationaux de Slimani, qui dit qu'effectivement, un joueur qui est né en France, qui a grandi en France, qui a des projets équipe de France, il ne faut pas lui en vouloir et le mettre ce qu'on appelle dans le moule systématiquement. Comme on le fait depuis des années, on va chercher le nom des Algériens, on les met sur une liste pour éventuellement les convoquer en équipe d'Algérie. La déclaration, elle est juste, elle est sans équivoque.
De Slimani, là, quand oui. il a parlé. Oui. C'est quand même fou que les gens ils donnent des leçons de morale quand ils sont en fin de carrière. En expliquant qui est bon, ce qui n'est pas bon, surtout pour l'histoire qui est très sensible. Oui. L'interprétation qu'ont les Algériens en Algérie et les Algériens qui sont en France, on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde, attention, il faut bien comprendre ça. Alors encore ceux qui sont de là-bas et qui sont installés ici maintenant. Alors là, c'est encore autre chose, ça. Et très, très, très fragile, parce qu'il y a toujours des gens, comme on voit sur les télévisions algériennes, qui dénigrent encore beaucoup de choses. Tu as vu, je ne sais pas que j'ai mis les pieds dans le plat, mais... Ce qui est intéressant quand même, c'est de renvoyer quand même les réalités, ou du moins les exigences de ce qu'est le sport de haut niveau, le football de haut niveau surtout, et de voir aujourd'hui que les gens occultent complètement ça. Et c'est pour ça que je leur dis, ils avaient zéro locaux, zéro, peut-être un, deux sur le banc. Mais plus ça va aller, plus ça va être de pire en pire.
Parce que j'ai regardé l'équipe des U20 algériens, quasiment les trois quarts sont tous issus d'immigration. Hein.
Complètement.
Oui. Et U20, je parle, je précise.
Ce qu'on n'investit pas dans la formation, oui, c'est tout. C'est aussi simple que ça. On avait dit, puisqu'on parlait de la formation, on avait dit dès le début de saison que normalement une équipe de Ligue 1 ne devait pas prendre part du début du championnat algérien sans qu'il y ait une équipe féminine. Ben, pour l'instant, oui. On ne les a pas vues.
Non, mais c'est vrai.
C'est vrai ?
Oui. Mais logiquement, la Confédération africaine aurait dû suspendre.
Exactement. Ouais. Ça veut dire qu'elle aurait dû suspendre tous les clubs algériens, sans exception.
Et pourtant, les clubs masculins sont qualifiés pour le...
Ah, c'est juste une petite remarque. Oui,
non, mais normalement, c'est une décision confédérale. C'est la Confédération africaine de football. Et comment se fait-il que cette décision, malheureusement...
a été contournée.
Oui, c'est ça.
Mais ça, c'est la FIFA qui met ça en place. C'est pas la CAF. C'est la FIFA qui impose ça dans tous les footballs. Donc, on sait aujourd'hui...
Oui, la section féminine est obligatoire.
Le poids féminin qui pèse sur le monde entier, sur les décisions et sur l'équité, surtout. Donc, aujourd'hui, on est confronté à ça. Et aujourd'hui, que la CAF impose les critères de dire que vous devez avoir des équipes féminines, tant qu'elle ne mettra pas comme l'histoire des salaires, tant qu'elle ne mettra pas le zéro pointé à tous ces gens-là... t'auras encore ce que tu vois là. Donc on va aller chercher une équipe en dessous les, je sais pas où, tu vas aller chercher les filles dans les écoles vite fait pour qu'elles construisent une équipe qui n'existe même pas. En sachant que n'oublie pas que quand même l'Algérie avait une très belle équipe féminine. Hein.
Oui, je m'en souviens, moi j'étais connu.
Nous, à la GSK, une équipe féminine qui était vraiment du très bon niveau.
Avec Naïm Alaoudi.
Ah ouais. Et très très belle équipe. Hein. Et bon, et avec le temps, Hanashi m'a dit je ferme. j'étais là-bas en plus. Hein.
Ouais.
Honteux, je lui ai dit c'est honteux.
Eh ben aujourd'hui, au niveau confédéral, ben on le paye cher, hein, puisque la confédération t'impose ça. Là, je n'ai pas compris au niveau des compétitions africaines, est-ce à dire que tous les pays ne sont pas prêts pour engager des équipes féminines ? Peut-être, Nasser, qu'en plus, c'est une logistique. Si tu fais la Coupe d'Afrique et que dedans, tu intègres le football féminin, les filles, il va falloir les transporter à travers le continent. C'est des coûts économiques.
Bien sûr.
Qui est prêt Est-ce que la Confédération est prête à assumer les charges pour ses filles C'est surtout ça.
Ils n'ont rien à faire, eux, c'est des êtres humains. Les femmes, hommes, ils les mettent au même niveau, au même point d'égalité. Et donc, tu vas embarquer les filles comme les mecs dans les compétitions qu'elles ont. Parce qu'elles se reconnaissent le droit, et elles ont raison, d'équilibre et d'égalité. Donc, cette égalité-là, il faut qu'elle soit apparente. Donc, c'est à ces gens-là de se débrouiller. Et ne pas attendre comme ils font à la dernière seconde, dernière minute, de sortir 10 filles de je ne sais pas d'où, là. Et montrer sous une pseudo-équipe. Et quand tu es dans des clubs de très haut niveau, c'est pas logique. Quand tu vois aujourd'hui en Europe le niveau que ça atteint, t'as vu, les clubs pros sont vite mis dessus et là, ils touchent encore comme les hommes. On a des filles qui sont dans le recrutement où tu as des filles de très haut niveau. Hein. En Afrique, tu as comme le Nigeria, le Cameroun, tu as des Camerounais, tu as des vrais joueurs.
Les
Ivoiriens, tu as des vraies joueuses. Et là, c'est des vrais championnats d'Europe, championnats africains qui seraient sympas. Il y a Moumou Al-Girafou qui est un grand spécialiste. Si
vous voulez. C'est vrai, il faut lui reconnaître ce travail. Ouais. Il a fait un super boulot sur le football féminin.
Il a fait un bon livre en plus. Ouais. Il a fait un bon livre.
Ouais, je m'en souviens. Ouais.
Et pour la petite anecdote, la sélection algérienne est classée 80e mondiale.
Féminine.
Ouais.
Et encore.
Elle était 79e et maintenant elle est 80e.
La pauvre équipe, elle ne joue plus de match. C'est pour
ça que... Moi, je croyais qu'elle était 20e ou 5e africaine. Mmh. 80, il y a 80. Il ne reste pas beaucoup derrière nous. Hein.
Ouais.
Je crois que c'est 110, 140, on est derrière.
Parce qu'il n'y a pas, tous les pays dans le classement. Hein.
Et selon le dernier article publié sur le DZ Foot, le titre « L'Algérie poursuit sa descente aux enfers ». Il parle de la sélection algérienne féminine.
En fait, j'ai l'impression que on ne s'intéresse qu'à l'équipe de football A masculine.
Non, mais moi,
même si dans les autres catégories, je trouve que les jeunes entraîneurs ils font du bon boulot, il y a des compétitions, etc. Et là, je viens de voir dans la sélection des U20, je viens de le voir, c'est impressionnant le nombre de joueurs issus de l'immigration.
Alors c'est pas grave, mais parce que moi j'aime pas trop le terme issu de l'immigration. Ce sont des Algériens comme nous qui ont choisi la sélection algérienne. Il faut dire que ce sont des Algériens parce qu'on va pas rentrer dans ce discours. Mais moi ce que je sais, c'est que malheureusement nous en Algérie, on n'a pas cette faculté à investir dans la formation. On a toujours cette faculté à investir pour des joueurs de nom qui n'arrivent même pas à s'adapter dans les équipes où ils signent. Et on a beaucoup d'exemples.
Il a signé pour 500 millions.
Mais le pauvre, mais il ne les touche même pas.
Merci.
Il ne les touche absolument pas. On l'a vu, je peux te citer quelques exemples. On a vu avec Djabou, par exemple, qui est parti au MSA, qui n'arrive même pas à s'adapter. Pourtant, c'est un des meilleurs clubs en Algérie. Et on voit d'autres joueurs aussi, et c'est ça. Malheureusement, il faut se poser les bonnes questions. Et est-ce que nous avons aussi les bonnes personnes pour développer la formation algérienne? Moi, je pense que non.
Ouais. Très bien. Alors, coach, je vais revenir aujourd'hui aux compétitions africaines parce que mine de rien, malgré la difficulté, on retrouve quand même. Bon, mis à part la GS Sawara qui a été éliminée hier, elle a joué à 11 contre 10. Je crois que l'équipe de Gunaroise est une équipe ivoirienne. Bon, on se fait éliminer comme ça, bêtement. Par contre, belle qualification de la GSK du CRB en Ligue des Champions pour la phase de poule. Il reste l'USMA ce soir, mais sachant que l'USMA avait déjà gagné son match aller, je crois que c'est aussi contre une équipe togolaise, il me semble. En tout cas, l'USMA est bien parti aussi pour sa phase de poule. Bon, ça va dans l'ensemble. J'ai vu également la qualification des équipes marocaines. Hier, notamment le Raja de Casablanca et la Renaissance de Berkane. Je crois que le Wydad, c'est aujourd'hui aussi. Bon, et puis on va retrouver les ténors du football nord-africain vraiment dans les phases de poule. Hein.
Et en parlant de la belle qualification de la GSK, moi je pense pas que c'est une belle qualification, c'est une qualification in extremis et à l'arrache.
Non, je dis comme ça parce que j'ai vu le match aussi hier. À un moment donné, je me suis dit heureusement que les Togolais ont égalisé dans le temps additionnel. Hein.
Ouais.
Dans le temps additionnel. Parce que si c'est pendant le match, je pense qu'on aurait droit à la prolongation.
Ouais.
Ils auraient marqué un but, hein, de toute façon.
Il n'y a pas de supposition au football, c'est le résultat qui prime. Le reste, si, il n'y a pas de si, ils sont qualifiés, terminés. En revanche, là, on passe
à... Pas d'ici, mais quand même, on aurait bien aimé avoir l'art et la manière à la fois.
Ah, oui. Ça, c'est une sensation.
Non, mais c'est
un vrai sujet d'ici.
Ouais.
On est en train de parler de la GSK. Hein.
Voilà.
Pas de n'importe quel club, on est bien d'accord.
Pour y mettre la manière,
Les moyens aussi.
Et là,
Nasser, pourquoi dans le football, on parle de l'art et de la manière quand on a des fois un match qui est pourri sur un terrain en piteux état, etc. On dit au l'art et la manière, tu ne peux pas utiliser l'art et la manière si tu n'as pas tous les ingrédients.
Bien sûr. Là, tout est là. Tu ne peux pas demander à des équipes de produire du beau jeu si, un, t'as pas les conditions, l'environnement, les conditions du stade, l'environnement, le public, l'arbitrage, la pelouse, le ballon, tout ça, tant que c'est pas en vraie conformité. C'est-à-dire que ça apaise, du moins, les pressions sur les joueurs. Après, aux joueurs, il y a les joueurs qui doivent être porteurs d'un projet de jeu avec leur entraîneur. Et c'est l'entraîneur qui, lui, insuffle cette façon de jouer. D'une certaine façon, comme tu peux voir. Si tu n'as pas ça, tu te retrouves à voir des matchs. Quand on parle de l'Afrique, tu regardes, t'as une gestion des émotions, t'as surtout une gestion de la peur qui fait que tu n'as pas du tout ces garçons-là prêts pour faire ces matchs de ce niveau-là, avec cette pression-là. Ils n'ont pas. Regarde, tu regardes le Real Madrid comme tout à l'heure, regarde les Barça, tu regardes les joueurs, là, comment tu les vois, c'est des glaçons, c'est des blocs. Je sens qu'il n'y a rien qui transpire. Ça joue, mais... Oh, ils sont devant des millions de téléspectateurs. T'as un stade de 100 000 qui est devant lui, avec une pression. Tu vois les joueurs jouer tranquille. Tu mets les joueurs algériens là, ça part en vrille direct. T'as 35 coups de sifflet, t'as 12 pénalties, t'as un gars qui se produit sur le terrain. Obligé.
Et pour quelle raison?
Parce que la gestion émotionnelle, la gestion, la formation de ces garçons-là n'est pas faite du tout. Nous, on est formés dans du à peu près de l'approximatif. Et quand je dis l'approximatif, on est dans un état de violence, des gens violents, qui ont des comportements très violents. Ils ne peuvent pas répondre au-delà de la violence, ils n'ont pas dans la sérénité.
La violence, on les voit partout, hein, pas spécialement qu'en Afrique.
Oui, mais je parle en général.
On l'a vu récemment en Indonésie, 175 morts.
La violence morale, tu sais, la violence morale, ce n'est pas que la violence physique, attention, c'est la violence morale aussi. Après, ce qu'on a vécu, nous, on le voit aujourd'hui. Moi, j'étais au Maroc, j'étais en Algérie, j'ai vu quand même, pendant X années, j'ai vu que les Marocains sont beaucoup plus calmes que nous, dans le jeu. Le public est beaucoup plus calme.
Nous, on a cette ferveur, c'est pour ça.
Mais nous, on a des tailles, c'est des tailles, mais c'est...
ça n'a rien à voir.
Ben, dis donc, il y a longtemps que t'as pas tout ça. Et moi, j'en ai fait il y a 15 jours. Hein. Ouais. J'aurais bien voulu t'emmener avec moi et te mettre à côté. Bon, je bois un lit, tu vas voir un peu. Ça m'a réveillé tous mes souvenirs.
D'accord.
L'air de rien. Mais bon, c'est pour expliquer que voilà, c'est aussi ça. C'est un des pans de l'éducation de notre pays. On l'a pas, faut l'accepter. Donc maintenant, faut faire un travail là-dessus pour qu'on puisse amener des athlètes de haut niveau capable d'avoir la gestion et la patience de ce niveau-là, gérer les émotions internes. On ne l'a pas fait. Parce qu'on n'est pas formé, c'est tout. T'es pas formé, tu le dis, oui, je ne suis pas. Ben, on va te former, on va apprendre, on va essayer de t'apprendre.
Tenez, pour essayer d'apaiser les tensions actuelles, avec l'arrivée... décidément, j'ai ce qu'on appelle des micro-coupures de micro, c'est une catastrophe. J'essaie de faire appel. Je disais que on va arriver à une période importante, celle de la Coupe du Monde. Donc c'est dans quelques semaines. Est-ce que Nasser, par rapport à tout ce qu'on entend comme polémique ici et là, il n'est pas temps quand même de mettre une vraie parenthèse, essayer de revoir certains codes de fonctionnement du foot par l'oubli de cette Coupe du Monde, étant donné que, je ne sais pas moi, aujourd'hui... heureusement qu'il y a des belles équipes qui nous font aimer le foot. Sinon, il y a des équipes qui et des personnes qui me font fuir le foot. Quand je vois aujourd'hui le merdier dans le football français, oui, ça me donne plus envie. Hein.
Ouais, c'est clair. Il y a beaucoup de choses, bien sûr. Le problème, c'est qu'il y a une particularité, c'est que c'est la première fois depuis que le football existe qu'on va faire une Coupe du Monde en plein milieu d'une saison.
Ouais.
Ça n'a jamais
existé. Ça casse tout.
Oui, bah oui.
Beaucoup de joueurs blessés, on est d'accord. Hein? C'est pour ça que je dis, quelle réflexion doit-on faire post-Coupe du Monde? Là, ok, elle arrive. Du coup, tout le monde a peur de se blesser, tout le monde ne se donne pas à fond.
Tout le monde se blesse.
Tout le monde se blesse.
On l'a vu hier avec Richarlison. Ouais.
Encore?
L'attaquant du Brésil.
Ouais. Voilà.
C'est les périodes, c'est l'entrée de l'hiver, ça. C'est des éléments qu'on a. C'est pas la blessure elle-même qui est importante, c'est la fréquentation des matchs, le nombre de matchs qu'ils ont.
Et t'as vu, là, on leur a multiplié deux matchs par semaine.
C'est
folie.
Ça, l'histoire. Ben, elle est là, l'histoire, elle n'est pas ailleurs. S'il y a haute intensité, démultiplication de la haute intensité, ta blessure tout de suite directe qui se produit. C'est pour ça qu'il y a des joueurs qui sont un peu plus malins, qui sont capables de gérer un peu plus leur temps de jeu et de faire comprendre à l'entraîneur qu'ils ont aussi des priorités aussi là. Donc là, tout le monde limite la classe jusqu'en novembre, là, pour pouvoir avoir une Coupe du Monde plus que potable. Et ensuite, après la Coupe du Monde, là, on va compter les morts, mais on va compter ce qui s'est passé réellement là.
Parce que Nasser, tu m'as toujours expliqué, ça fait quasiment 20 ans que je fais cette émission avec toi, tu m'as dit la pire des périodes, c'est à partir de novembre, c'est là que les blessures commencent et que beaucoup de joueurs anticipent ou essayent de... par exemple,
oui, on a un projet de jeu pour le mois de mai.
C'est ça.
Voilà. Là, on ne connaît pas. On n'a pas de repère, on ne connaît pas. Personne ne connaît ce qui se passe, qu'est-ce qui va se passer là. Coupe du Monde, on ne sait même pas ce qui va se passer. Et les dégâts qu'il va y avoir derrière. Les dégâts qu'il va y avoir derrière. Tu verras les équipes et tu verras les équipes au mois de à la reprise, à la trêve, tu verras ce qui va se passer. Les décompressions, sur le plan psychique, sur le plan mental, sur le plan physique, sur le plan physiologique, tu vas avoir des dégâts monstrueux là, c'est clair.
Parce qu'il n'y aura pas d'Euro. La preuve, c'est que juste après la Coupe du Monde, les fameux Boxing Day anglais reprend juste derrière.
Ouais,
ben oui. Donc, en fait, les joueurs n'auront même pas le temps de récupérer, pas de vacances, et que déjà, ils doivent enchaîner une deuxième demi-saison. Jusqu'à mai.
Ben oui, c'est clair. C'est clair, on va être là-dedans. Après, maintenant, les dégâts, on va les compter à la fin. Parce qu'il n'y a pas d'autre choix à dire, parce qu'on ne l'a jamais fait. Depuis les années 30.
Oui, ça n'a jamais existé.
Il n'y a que le Qatar qui l'a fait avec l'argent. Donc, avec l'argent, il a acheté tout. Il a même été capable de construire une Coupe du Monde au mois de novembre, décembre. En plus, il est mis climatisé, en sachant qu'il aurait pu le mettre climatisé en été.
Bon. Alors, à l'heure de la sobriété énergétique, et bonjour les dégâts. Hein.
T'as vu ?
Ouais. Et il faut savoir que, alors, un élément qui a été donné, très important, bon, le Qatar, ce n'est pas un grand territoire. Ça veut dire que par rapport au nombre de supporters qui vont venir supporter leur sélection, donc ouais. Les 32.
Il n'y a pas beaucoup de monde.
Non, au contraire, Dubaï va servir de plat, on va dire, de hub, c'est-à-dire de base pour les supporters. Grosso modo, il y aura 160 vols par jour entre Dubaï et Doha pour amener les supporters. L'empreinte carbone, salam alaikum, hein. Il n'y a plus d'empreinte carbone là.
Ouais, j'ai vu Fodil, pour te réveiller un peu, j'ai vu l'histoire de l'alcool.
Oui, alors ?
Il va être toléré.
Toléré.
Mais
il y a toujours un mais ?
Oui, ils ont un endroit pour les vomir. J'ai entendu un truc comme ça sur RMC là, un matin, j'ai pleuré. Ils le remettent des endroits où ils peuvent.
Ouais.
Mais bon, c'est sûr pareil. Ils vont dire un, c'est bon, deux, ça va être chaud, quoi. Parce que pour eux, ça va être. Mais ils ont dit officiellement qu'il n'y aurait pas de soucis.
D'accord.
Même les homosexuels pourront se promener main dans la main et s'embrasser.
À mon avis, pas dans tout cas.
C'est ce qu'ils ont dit. Moi, je ne sais pas moi, c'est ce qui a été dit.
Ouais.
Pour l'instant, il n'y a aucun communiqué qui n'a été publié sur ce domaine. Sur ce sujet-là, aucun communiqué. Pour l'instant, aucun communiqué ni de la part de la FIFA.
RMC, vous te donnez l'info.
Moi, je me fie pas uniquement à RMC. Même moi, je peux te dire n'importe quoi, mais sans communiqué, moi, je me fie pas vraiment à leur déclaration.
Bah, il dit que même les
LGBT, c'est ça,
LGBT.
Ouais.
Ils auront leur part, ils auront leur drapeau et ils pourront se promener dans les rues au Qatar.
Pas en short. J'y crois pas. Hein.
Main dans la main.
Non, ils sont obligés d'avoir la gandoura, leur camis, comme on dit. Allez, la pub, puis après. Le dernier sujet avant le gros dossier de cette soirée consacré au rallye des deux Tassili, Nadjer et Lahagal pour les femmes, et le Hogar Bike, c'est au mois de février prochain. Nasser, tu prépares ton vélo, tu vas faire le tour du Hogar.
Oh, magnifique.
Ah ouais, c'est au mois de février prochain. En tout cas, les trois invités, ils vont tout expliquer. On partira à la découverte du désert algérien qui est méconnu et qui est apparemment, d'après Michel Bizot, hein, c'est pas n'importe qui, et pour lui c'est l'un des plus beaux déserts au monde.
Foot de sport revient dans un instant sur Beurre FM jusqu'à 20h. Foot de sport sur Beurre FM.
Savez-vous que celui qui est le mieux placé pour les résultats africains, la préparation des matchs internationaux, c'est notre ami Abdelkrim. Eh oui, il est à Grenoble. Bonsoir Abdelkrim.
Bonsoir Abdelkrim.
Salam alaikum Azoul, à Mohand, coach Sanzak, à Foudil. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre avec vous.
Non, on n'est que trois.
D'accord.
Okay. Voilà, on est trois en plateau, t'inquiète.
Ça fait plaisir de dire que je suis spécialiste des résultats du football africain.
Alors, moi j'avais dit tout à l'heure sur les qualifs des équipes algériennes marocaines. Bon, c'est vrai, côté algérien, il y a l'élimination de la Saoura hier, j'ai vu.
Ouais, il y a eu une grosse polémique par contre par rapport à l'arbitrage. J'ai vu le résumé, c'est vrai qu'ils se sont fait vraiment voler. Hein. Ouais. Sans être mauvais perdant. Je vais un long résumé du match. Je comprends pas comment un arbitre peut refuser un des deux buts qui était valable, un troisième but qui est marqué, je crois, à la 80 minutes, et la balle, on voit bien au ralenti plusieurs fois sur la caméra algérienne que la balle est bien entrée dans le but, et l'arbitre libyen était aveugle, il a rien vu, ni son arbitre de touche. Voilà.
Bah, dis-moi, mais
par contre, oui. Je revenais par rapport au club algérien. Bah, pour l'instant, on a la bonne nouvelle, c'est déjà qu'on a nos deux clubs. Deux grands clubs algériens qualifiés pour la Coupe africaine, le Cheval de Louisette qui a battu 2-0 le Djouba.
Ouais, j'ai vu ça, j'ai suivi, ouais.
À Sétif.
Ouais.
Et la JSK qui est passée finalement par
la trappe.
Souris.
Oui, c'est vrai.
Non, mais c'est vrai, Mohamed.
Ah, ouais.
Il y a pas le deuxième but à Lomé. Imagine, ils ont marqué la JSK au match aller. Ils ont fait un partout.
C'est vrai.
Et là, avec le partout au retour, ça fait tir au but. Hein.
Ouais.
C'est au tir au but. Hein.
Ouais.
Donc, ça, j'ai pas un trou de souris.
Non, mais c'était vraiment un coup de chance, là. Hier. Je dis, ils ont déconné sur la fin alors qu'ils avaient la maîtrise du match, hein, j'ai pas compris.
Ouais, mais je pense qu'après, je veux dire, c'est comme certaines équipes algériennes, on a tendance à se relancer vers la fin du match, souvent, dans les dernières minutes.
Oui, c'est vrai.
Surtout quand on sait que la GSK elle menait au score, tu vois, donc du coup, voilà, ils se sont dit pour que l'équipe adverse se qualifie, il faut qu'elle mette deux buts.
Tu vois, par contre, quand j'ai vu hier.
Le dernier club algérien qui est pas encore qualifié parce qu'il joue sort, mais en Coupe de la CAF, c'est l'USM Alger, mais bon. Vu le résultat du match aller,
Cataclysme,
ils vont se qualifier parce qu'ils avaient gagné 2-0 contre aussi un club togolais de Cara au match aller et à l'extérieur.
Alors, ce qui m'a surpris hier, c'est que j'ai vu une belle équipe quand même du CRB et l'adversaire en face, c'est-à-dire le Djoliba de Bamako, ça joue au ballon, le Djoliba.
C'est un habitué aussi de la Ligue des Champions.
Et puis, c'était un bon match quand même. Hein. Non, c'est agréable.
Faut pas oublier que si vous regardez les coupes africaines, les deux meilleures équipes du Mali, historiquement, c'est le Djoliba et le Stade Malien.
C'est vrai.
Qui avait remporté la Coupe de la CAF contre Sétif en 2009.
Ouais.
Et Abdelkrim, le Djoliba.
Au tir au but.
Et Abdelkrim, le Djoliba aussi, a une bête noire en Algérie qui est.
Sétif, je crois.
Non, c'est la JSK.
Ah, d'accord, ok.
Ouais.
Ça je savais pas, tu me l'apprends. mais ils se sont rencontrés combien de fois aussi, Fodil? Parce que ça me virait quand vous dites bête noire, c'est quand t'as joué plusieurs matchs contre telle équipe, enfin contre le même adversaire et que tu l'as souvent éliminé. Sinon, tu peux pas te donner des bêtes noires si tu as éliminé par exemple Djoliba deux ou trois fois.
Mais la JSK a toujours réussi à les battre, et surtout en Ligue des Champions et de temps en temps dans le dernier carré aussi.
Par contre, je tiens juste à faire une petite rectification.
Oui.
J'ai regardé les derniers résultats des clubs maliens des champions.
Oui.
Si ma mémoire ne trahit pas, il faudrait que. Enfin, je crois que je ne peux même pas te le dire. En fait, ça fait un moment qu'on n'a pas de club malien qualifié au pool de la Ligue des Champions africaine.
C'est vrai.
De la AC1.
Ouais. Non, mais.
Pas de la Coupe de la CAF.
Hein. Oui, non, mais il y a un souci. C'est vrai que. Mais quand tu vois la plupart des pays subsahariens aujourd'hui, malheureusement, c'est. C'est les coups d'état militaire, etc. Et tout. C'est pas évident de jouer au foot, de se concentrer sur le foot. Et puis, quand tu sais que dans ton pays, la situation, elle est.
Oui, comme au Burkina, là, dernièrement.
Au Burkina, récemment aussi. Donc, c'est très compliqué.
Ouais. Ouais, ouais. Ça a obligé le champion du Burkina Faso, le Racing Club de Kadioko, à reçoir au Bénin. Enfin, ils ont joué, là. Ouais. Le match, il est fini. Ils ont joué à Cotonou contre le vice-champion du Congo, Vita Club. Et au niveau des séquelles de la Ligue des Champions. Bon, comme d'habitude, je t'avais expliqué, chaque année, on avait toujours une ou deux surprises de grands qui se faisaient éliminer, au moins une. Et ben, on l'a encore eu. C'est le tout puissant Mazembe qui s'est fait éliminer par le champion d'Ouganda, Viper.
Ouais.
Viper, ça veut dire en anglais, alors le gros, c'est une vipère.
Ouais.
Bon, enfin, une vipère, on dirait plus un cobra qu'une vipère, mais en Afrique. du coup, en fait, j'ai fait 0-0 à Kampala, et au retour, ils font encore 0-0 à Lubumbashi.
Ouais.
Et là, c'est joué au tir au but. Et. Ça a eu une conséquence de verrer l'ancien club de la JSK et du CRB, le français Franck Dumas, qui a été limogé.
D'accord. Ah oui, ben oui, Franck Dumas était entraîneur de.
On connaît Franck Dumas.
Ben oui, entraîneur de TP Mazembe.
Si je ne me trompe pas.
Eh ben en Afrique, c'est ça, dès que tu te fais éliminer, allez, dehors. Voilà,
donc du coup, et en plus, sur Mazembe, c'est la deuxième année d'affilée qui ne se qualifie pas au pool de la Ligue des Champions africaine. Donc du coup.
Ouais, non mais attention, le TP Mazembe, on a beaucoup perdu à Abdelkrim. C'est pas l'ancien TP Mazembe, je te le dis tout de suite, hein.
Ouais, mais après les autres résultats, sauf le Wydad qui joue ce soir, je t'avais dit que une semaine ils avaient perdu 2-1 au Nigeria contre Rivers United. Et à part le Wydad qui joue ce soir, tous les grands clubs sont qualifiés.
Exact.
Même si Il y a l'espérance, j'ai regardé vite fait le résumé, je pense que l'arbitre égyptien a donné un coup de pouce aux espérantistes. Je vous invite à revoir le pénalty de la qualification de ce combat des Pays-Bas contre la Tunisie du Nigeria. En fait, le joueur nigérian, en fait, il fait la faute sur le joueur tunisien, mais la faute, elle est en dehors de la surface.
D'accord.
Elle est même pas dans la surface, donc du coup, il n'y a pas de VAR. Donc du coup, ils auront beau protester le Nigérien, et l'arbitre, il a fait une erreur. C'est pour montrer comme quoi, même les gros, certains gros morceaux, ils qualifient difficilement. C'est plus pour ça. Et par contre, je vais laisser de côté le football africain, juste pour parler de l'équipe nationale.
Oui.
Parce que, alors, est-ce que vous êtes au courant que dernièrement, finalement, la préfecture des Bouches-du-Rhône de Marseille a refusé de domicilier le match amical Algérie-Soweto? Je ne sais pas si vous êtes au courant.
Oui, on est au courant, bien sûr.
Voilà, et j'ai lu, d'après un journaliste algérien et d'après un autre site, que c'est le stade du Havre qui aurait accepté de recevoir ce match amical.
Oui, c'est l'information que j'avais donnée à mes collègues avant le début de l'émission.
Et
c'est pas officiel. Parce qu'il faut savoir que ce que les gens ne comprennent pas, c'est que même si tout est ficelé au niveau de l'organisation, il reste toujours la décision finale qui appartient au préfet.
Oui, bien sûr, c'est la préfecture qui décide pour chaque ville. Ouais. Celle qui donne l'autorisation. Mais là, apparemment, pour les Bouches-du-Rhône, c'est une question de sécurité. Pourtant, la sport.
Non, ils abusent parce que la veille, je crois qu'il doit y avoir un match de rugby. Et deuxième, quand il y a un match de rugby sur un terrain de foot Abdelkrim, il te faut beaucoup, beaucoup de temps pour.
Faut changer la pelouse.
Pour changer la pelouse. Donc, c'est pas. Il faut qu'on arrête avec les trucs de sécurité.
Je dis comme une officielle.
Oui, parce que l'Algérie, elle avait joué un match. C'était contre la Colombie à Lille.
Oui, à Lille, c'était bien passé. Pas d'envahissement de terrain, pas d'assurance.
Non. Je pense qu'à un moment donné. C'est vrai que les pelouses, elles sont tellement sollicitées en ce moment. Là, il va y avoir, je crois, ces deux dates FIFA dans une petite fenêtre juste avant la Coupe du Monde. Bah, ça permettra aux équipes qui vont faire la Coupe du Monde de peaufiner leur dernier réglage. Et puis pour d'autres, ceux qui n'auront pas de match dans les jambes, ils vont pouvoir jouer, je pense, à l'équipe d'Algérie.
Et par contre, il y a un deuxième match amical qui est prévu contre une équipe africaine. Mais alors moi, j'ai pas compris. Au début, un coup, on nous dit qu'il va avoir lieu à Alger pour inaugurer le nouveau stade de Baraki. Et après, j'apprends là, il y a cette semaine, que la CAF a demandé à ce que les stades retenus pour le CHAN ne soient pas utilisés pour pas abîmer la pelouse, soi-disant. Et là, je lis dans d'autres journaux algériens sportifs qu'ils annoncent que l'équipe africaine qui sera choisie, finalement, le match il aura lieu en France. Ça me fait rire parce que ça veut dire que il faudra avoir une autorisation d'une autre.
Il faut arrêter avec Abdelkrim. Il faut arrêter avec le délire de ces journalistes qui parlent de France. Mais ils savent très bien que malheureusement l'équipe d'Algérie elle est classée presque rouge en France. Regarde ce qui s'est passé lors du match Brésil-Tunisie au Parc des Princes. C'est parce que les Brésiliens voulaient à tout prix rester à Paris, alors qu'il y a eu un Brésil-Ghana au Havre, ça s'est très bien passé, mais avec les Tunisiens, visiblement, ça s'est moins bien passé, surtout au niveau des insultes racistes, je crois, vis-à-vis de Richarlison ou vis-à-vis de Neymar.
Richarlison.
Merci, Fadil. Ouais.
Il s'est passé quoi exactement?
Apparemment, ils ont jeté une banane.
Ouais.
Après le deuxième but du joueur Richarlison de Tottenham.
Richarlison.
Alors moi, qui
s'est blessé hier.
En fait, ouais.
Oui.
En fait, et qui ne fera pas la Coupe du Monde.
Il y a une sélection maghrébine qui joue en France. J'ai l'impression en fait qu'en France, les autorités visent que les supporters maghrébins. C'est bizarre quand c'est les Portugais, les Espagnols ou même les
Turcs. Abdelkrim, regarde en Espagne, il y a eu un match amical entre le Maroc et je crois. Le Chili, il me semblait. Je sais pas si.
Oui,
le Chili. Ouais, t'as vu, il y a eu un envahi. Le Paraguay.
Le Paraguay aussi.
Mais contre le Chili, il y a eu.
Apparemment, il y a rien eu. Contre le Paraguay, c'est assez bien.
Oui, mais contre le Chili, il y a eu envahissement de terrain, etc.
Les supplémentaires sont entrés en force à la fin du match.
Voilà, mais le match, il s'est joué en Espagne, du coup. J'ai pas compris là. À chaque fois, on est ce qu'on appelle la cible privilégiée. Voilà.
Ouais, là, c'est privilégié, mais moi, je pense qu'à l'avenir, surtout, je parle de notre équipe nationale, à l'avenir, avec les beaux stades qui vont bientôt être réceptionnés, comme Baraki, Tizi Ouzou, le stade de Douala, et avec le stade d'Oran qui a été fini, franchement, les matchs amicaux, on les joue à la maison ou chez l'adversaire. Faut arrêter d'aller jouer dans un pays neutre comme la France ou je sais pas où, en Espagne.
Normal.
Vraiment, moi, je suis contre, personnellement.
Abdelkrim, écoute ce que tu dis, Nasser.
Je suis entièrement d'accord avec toi, ce que tu dis là. Quand tu parlais comme ça, je me disais pourquoi la France ne va pas faire un match amical en Algérie ou bien J'ai l'intégrité comme ça, j'ai du mal à comprendre comme ça les pays qui s'exportent pour des matchs amicaux. Ouais. Maintenant, si c'est pour une œuvre ou un truc comme ça, exceptionnel, tu peux accepter, il n'y a pas de problème. Mmh. Mais quand c'est là, t'as ton intégrité, ton pays, ton territoire, tu les invites chez toi, ils viennent chez toi, t'as un stade à Alger, t'as un stade à Oran, t'as ce qu'il faut.
Ou tu vas chez l'adversaire sinon.
Oui, voilà, tu vas chez l'adversaire.
Voilà, c'est vrai que moi je comprends pas ce
délire. C'est un business dans les organisateurs aussi.
D'aller jouer les matchs en France.
Il y a l'argent aussi de côté à Belkrim.
C'est un business avec les organisateurs du match. Moi je te le dis, c'est ça l'histoire.
Oui, parce que c'est comme Sport Management, celle qui organise le match amical contre Algérie-Suède. Apparemment, c'est elle qui décide. En fait, c'est la boîte avec qui tu fais les contrats. C'est elle qui a le dernier mot pour le lieu de la rencontre. Mais je trouve quand même que c'est dénigrant. Quand on a des stades neufs qui viennent d'être faits, d'aller jouer un match amical sur un terrain neutre, c'est même
gentil.
Pas le terrain de l'adversaire,
c'est
pas n'importe quoi.
Alors j'ai une très belle réflexion de notre ami Farid Yarfi, que nous saluons, parce qu'il est à l'écoute de l'émission. Il dit, je suis entièrement d'accord avec Nassar concernant la gestion de l'émotion. On n'a aucune culture pour cela. Il se fait de voir les trois dernières minutes, Algérie-Cameroun, par exemple, l'attitude du banc et de certains joueurs. Nous avons tendance à confondre l'énervement, la tension nerveuse positive. Posons-nous la question de savoir pourquoi on ne peut pas recevoir de sélection étrangère en Algérie, pourquoi les gens, j'ai du mal à comprendre pourquoi le pays joue par exemple à l'extérieur. La phrase n'était pas finie. Donc je pense que c'était ça.
Voilà. Ah oui, bah voilà. Farid, félicitations, magnifique.
Bah non, mais Farid, toujours oui que lui, quand, dans la réflexion. J'aime bien.
Oui, il confirme. Bah, ce que j'expliquais avec Foudi, on débattait là tout à l'heure. On parlait de ça, et ça se transmet sur toutes les choses. Voilà ce que disait Abdelkrim, là. Voilà, un stade, tu peux pas, parce que tu donnes l'impression de faire peur. Ta gestion, elle n'est pas là. Donc ton public, il n'est pas fiable. Il y a des pays qui viennent, et moi, je trouve, moi, dans l'absolu, dans l'intégrité du pays, t'as un pays, t'es indépendant, t'as ton terrain, t'as des stades. Ramène les gens chez toi, mon frère. Faut qu'ils viennent chez toi, ils viennent jouer le match. Ils n'ont pas à aller se vendre, je sais pas pourquoi, pour. À moins, comme je dis, il y a des œuvres sociales où il y a eu
un
vrai truc. Tu joues chez toi ou je vais chez toi.
Très bien, merci Abdelkrim. On arrive à la fin de la première heure. Puis je marque une dernière pause avant de parler, bien sûr, de Rally Raid.
Foot de sport revient dans un instant sur Beurre FM. 18h, 20h, Foot de sport avec Mohamed Marouf sur Beurre FM.
Bonsoir, ravi de vous retrouver pour cette deuxième heure exceptionnelle consacrée à la découverte d'un lieu magique. C'est le Sahara, c'est le désert algérien, à l'occasion de deux événements majeurs. Le premier, il concerne les équipages 100% féminins. Et le suivant, eh bien, c'est pour tout le monde. Mais en 2023, trois invités que j'aurai l'honneur d'avoir en direct, mais de façon séparée. J'espère que vous, les autres sont à l'écoute pour au moins voir cela. Celui qui a toujours eu cette idée d'organiser ces événements dans le Sahara algérien, c'est Toufik Bourali, président de Mzab Tour. Alors Toufik, je vais le saluer. Bonsoir, bienvenue sur l'antenne de Beurre FM.
Bonsoir cher ami Mohamed. Alors, plaisir d'être à la radio aussi, Beurre FM.
Bon, Toufik, à l'heure où je parle avec toi, tu es à Tamal Rasset, c'est ça?
Je suis à Tamal Rasset, à 4000 km de Paris.
J'aime bien, à 4000 km de Paris. Ouais, ça fait du bien. Dis-moi, tiens, à cette heure-ci, quel temps fait-il là-bas, à Tamal Rasset?
Très bon, bon soleil, il fait frais.
Il fait frais, bien sûr.
De toute façon, à partir de cette période, même le mois de décembre,
oui.
Vous pouvez mettre en demi-manche la journée et le soir en pull.
D'accord, bah c'est bon à savoir. Dis-moi Toufik, je sais que la période de Covid a causé beaucoup de dégâts, notamment sur toutes les manifestations sportives. Hein. On va dire que c'est la planète entière qui était concernée.
Ouais.
Et là, on va se retrouver sur deux événements majeurs, puisque il y a d'abord ce fameux rallye des deux Tassili. Alors, qui a eu l'idée? Je sais que tout à l'heure, quand j'aurai Amir, on va aborder le. Parce que lui, il est directeur de l'événement du Hogar Bike. Par contre, il est aussi co-organisateur avec toi sur cet événement du raid des deux Tassili. Et c'est un raid 100% féminin. Est-ce que tu peux nous en donner un peu plus de détails?
Vous savez, j'ai commencé par le raid des reines d'Algérie depuis 2016.
Ouais, je me souviens de celui-là, bien sûr.
On est à la 6e édition.
Oui.
Alors, vu que la majorité des filles faisaient entre Alger et Tamara, c'est la route, c'est un peu, c'est bien aiguillé. Mais le reste maintenant, ils font du 4x4 en plein désert. Ça veut dire, on fait 700 km de piste. Et c'est vraiment un plaisir de conduire. Ils sont assistés par des grands chauffeurs Touareg. Dans chaque véhicule, il y a trois personnes, deux femmes et un guide Touareg. Et ils les aident si jamais il y a un obstacle, ils remarquent un type de fatigue, ils peuvent intervenir. Mais c'est des étapes de 150 à 200 km par jour, hors piste.
Alors, tu viens de me dire hors piste.
Oui, oui.
Bon.
Vraiment, c'est la navigation avec les étoiles, si on pouvait dire.
Et en plus, alors, ce raid des Dutasilés est réservé uniquement aux équipages féminins. C'est quoi le critère? Bon, bien sûr, c'est de savoir conduire une voiture pour commencer.
Uniquement.
Oui. Vas-y, je t'écoute, Toufir.
Alors, non, on met des 4x4 dans le Grisard à disposition.
Oui.
Chaque 4x4 il a son chauffeur. Mmh. Et les assistent, ils sont dans la voiture.
Oui.
On fait des, c'est un vrai rallye, mais il n'y a pas de chrono. Il n'y a pas de chrono parce qu'on n'est pas avec des professionnels. On essaie de les encadrer et de les aider pour ne pas faire de la vitesse, trop de vitesse, et de tracer des pistes, ne pas tomber sur des pièges, des pièges de dunes et tout ça. Mais les passages sont très très beaux, l'organisation est magnifique. L'assistance, l'ambiance aussi.
Une question, Toufir, qui est très importante pour moi. Est-ce que, par exemple, vous avez fait ce qu'on appelle un repérage du tracé? Parce que...
On a le repérage, c'est tout à fait normal.
Oui.
On a un repérage avec des kilométrages.
Oui.
On a un roadbook qui est bien ficelé.
D'accord.
Jamais on compte pas. On est équipé de téléphone Toria, radio. Toutes les assurances sont là pour... que le groupe arrive au port en très bonnes conditions.
Alors, combien y aura-t-il d'équipages féminins sur cette épreuve un peu spéciale, puisque c'est Taman Rasset Janet, je précise. Hein. Ouais, Taman Rasset Janet, c'est du 4 au 10 novembre prochain. Donc, il y a deux Tassilis, le Tassili de la Hagar et celui du Nadjer. C'est quand même exceptionnel, hein, c'est des paysages de rêve, quoi.
Non, les gens qui ont fait cette région, ils reconnaissent. Mais c'est une découverte. Et il faut vraiment la faire au moins une fois.
D'accord. Alors, combien d'équipages allez-vous avoir au niveau chez les femmes, par exemple?
On va avoir une vingtaine d'équipages.
Alors, donc c'est limité à 10 équipages, c'est ça?
Ouais, non, à 15, mais on est à 20, là, on arrête.
Ah, d'accord, ok. Donc, vous arrêtez à 20.
Oui.
20, ça fait... deux femmes par véhicule, donc ça nous fait 10.
Parce que vous savez, il y a des plateaux qui sont très vastes.
Oui.
On peut vraiment contrôler tout le monde, parce que chacun prend une piste. Chacun se fait une piste à lui.
D'accord. Bon.
Parce que comme ça, pour éviter des bosses, des tons ondulés et tout ça, et puis chacun se fait une petite piste. Et il faut tous les surveiller en même temps.
Oui, parce qu'aujourd'hui, pour convaincre les gens de venir, il faut insister sur un volet important, c'est le volet sécuritaire, parce que généralement on dit, oui, si je pars dans le désert, etc. et tout, on sait très bien que, on va le dire, vous êtes quand même très bien entouré en termes de sécurité.
Moi, je vous dis une chose, on ne s'est jamais senti en sécurité plus que maintenant.
Magnifique.
Parce que là, parce qu'on fait des allers-retours en permanence, on fait des repérages, on fait plein de choses.
Ouais.
Et puis, c'est vraiment ici.
Ouais. Non, mais c'est important, ce que je dis là, c'est aussi pour rassurer les concurrents qui vont partir de l'étranger, qui vont découvrir l'Algérie. C'est juste pour leur dire que les conditions sécuritaires sont réunies. Et croyez-moi que quand l'État met les moyens, vous pouvez rouler tranquillement dans le désert. C'est ça, je le sais.
À chaque fois qu'on touche au Toria, on a une patrouille de l'armée qui se présente.
Ah oui, D'accord. Ouais. Ah, c'est génial. Ça, ça veut dire que à tout moment, c'est en cas de perte, vous êtes repéré, quoi.
Ouais. On est repéré, oui. C'est pour ça qu'on fait des déclarations au départ. Oui. On déclare tous les numéros de téléphone qu'on a.
Oui.
Toria. Mais alhamdoulilah, l'armée nous suit de près, tout le monde.
Et ça, ça, c'est important quand même. Hein. C'est vraiment un moment où le concurrent va se sentir à l'aise, puisqu'il sera dans sa voiture, il va faire de la navigation, et il ne va pas penser à autre chose.
On a des instructions très sévères de la part de la sécurité. On est responsable. À chaque fois qu'on fait un programme pareil, on en parle de plus de 90% uniquement de la sécurité.
D'accord. Alors, Nasser, tiens, tu as une question à poser à Toufik.
Oui, Toufik, combien il y a d'étapes? Oui. Combien d'étapes? Combien de kilomètres les étapes?
Il y a 5 étapes, avec 5 bivouacs.
Et il y a combien de kilomètres entre les étapes?
Alors, les étapes, il y a les étapes de 120, de 240, de 100, de 100, 140, 150 kilomètres.
Ouais. Mais dans les dunes, Nasser, c'est pas sur l'autoroute A13. Hein.
Non, mais je l'entends bien.
Oui, il faut dire.
Toufik, bonsoir, avant toute chose.
Bonsoir. Bonsoir.
Moi, j'ai juste une petite question. J'aimerais savoir si, par exemple, pendant votre organisation, pendant ce rallye, est-ce que vous aurez des associations qui vont vous épauler?
Non, non.
Est-ce que vous avez des associations ou des équipes qui vont vous épauler pendant cet événement?
Non, je ne fais pas d'un groupe. C'est avec AMA événement. C'est des grands spécialistes de ces raids. On travaille ensemble. On est une très bonne équipe. Depuis 2016, on travaille ensemble.
En fait, donc là, ils sont trois. Il y a Mzabtour, il y a Ama Event, donc avec Amir, que j'aurai tout à l'heure également au téléphone. Ouais. Et puis, vous avez aussi donc le patron de Red Aventure, qui est à Aix-en-Provence, Michel Bizot, que j'aurai tout à l'heure aux alentours de 19h30.
Ouais. Et
il va venir dans très bien.
Elle repart encore.
Samia, elle est là-bas, hein, non? Ou elle va y aller,
Samia. Samia.
Oui.
Samia, elle a 2700 km aujourd'hui.
D'accord, d'accord. Donc,
elle est à la Sacrème.
Ah oui, elle est à la Sacrème aujourd'hui, Samia.
Oui. Je vais l'appeler tout de suite, elle va vous contacter.
D'accord,
la belle. Elle attend.
D'accord.
Je vais vous transmettre son numéro pour l'appeler, s'il vous plaît.
Bon, bah, écoute, on va rester en contact avec elle. Bon, Samia. Depuis qu'elle a découvert le Sahara, elle est subjuguée. Hein. Elle reste plus en France, Samia. Elle n'est plus en France, c'est fini. Mon cher Fodil, j'ai dit mon cher Fodil, parce qu'il est en face de moi. Oui. Non, c'est à tout faire que je m'adresse par rapport à cet événement sur ce raid pour les femmes. Donc, il y a quand même tous les moyens qui sont mis à disposition, notamment. En termes de frais de déplacement, combien ça coûte pendant la durée du raid?
Alors, ce premier raid, il est en promotion.
Oui.
Il est à 650 €, et bien inclus au départ d'Alger.
Ah oui, quand même. Alger, Tam al Rasset.
Oui, Alger, Tam.
Oui.
Et le retour de Djanat Alger.
Ah, d'accord, ok. Bon.
C'est bien ça.
Ouais, c'est intéressant. Oh, c'est
très intéressant. Non, vraiment, c'est l'ouverture du Grand Sahara de tourisme.
Oui.
La saison touristique, on fait toujours des trucs de promotion pour faire, Inch'Allah, faire connaître l'Algérie et aimer la destination algérique.
Oui, parce qu'aujourd'hui, l'Algérie a besoin d'une vraie promotion, notamment Nasser, sur ce qu'est sa beauté, le Sahara. Quoi.
Ben oui, il n'y a pas que le Sahara, mais ouais. C'est bien ce qu'ils font là. Non, mais pour 650 €, tu as le. Tu as le billet pour aller chez Tam al Rasset, la prise en charge complète, c'est la pension complète, j'imagine.
Non, on a un gros coup de main derrière l'Algérie aussi, nous prenons 50% de la billetterie.
D'accord.
Ah, c'est magnifique.
Oui, je pense que là, ça vaut le coup. Ouais, ouais.
Mais là, c'est complet, là, tout est complet. Là, pour
Et l'Algérie, elle est présente tout le temps. Et il y a Beurre FM aussi qui nous donne un coup de main à tes portes à Paris.
Ah, ben écoute, ça, on a toujours été présents, nous. À chaque événement que vous organisez dans le désert algérien. Donc là, c'est vrai que sur ce premier raid, qui est un raid 100% féminin, par contre, il y en a un deuxième tout-feu que vous préparez. Bon, il est un peu loin. Amir va nous en dire un peu plus. Même Michel Bizot tout à l'heure va nous en parler. C'est celui du Hogar Bike. En fait, c'est un tour à vélo. Et c'est ce que m'a dit Michel, des vélos électriques. Mais ça va durer du 11 au 19 février 2023. Et là, c'est vraiment des étapes autour de l'Askrem, Taman Rasset, vraiment que des sommets, là, c'est-à-dire des montagnes là-bas.
Un vélo dans le sable.
Oui, oui.
Non, plus de 300 km.
Hein. Bah écoute, il faut le faire. Hein. Bah, voilà, mais, tiens, le parcours, il est là, 320 km.
Hein. Oh là là.
Bah,
t'es dans le sable.
Je sais pas.
Vous savez, c'est vraiment, c'est une meilleure approche.
Oui.
Après le chameau, on a le vélo.
Oui. Ben oui, c'est vrai, après le chameau, le vélo. Ouais, ouais. Ben écoute, tout faire, je te remercie parce que après, je vais appeler Amir. Pour nous, parce que lui, c'est le directeur quand même de l'organisation de l'événement de Ogarbek. Ouais. Et puis bon, il est avec, puisque vous êtes trois, comme je le rappelle, trois organisateurs pour ces beaux, beaux et magnifiques événements dans le désert algérien. Merci beaucoup, Touvier.
Très bien. Bonne continuation.
Merci, bonne soirée. Voilà, ça c'est la première partie. C'est vrai que Nasser, ça fait rêver.
Il est complet là, il est complet.
Bah, déjà les femmes, t'as vu. Alors ouais. Il explique pour la sécurité quand même des concurrentes, ouais. ils vont se limiter à 10 équipages, alors qu'ils peuvent aller jusqu'à 15, ouais. Mais par rapport au parcours, etc. et tout, c'est 20 femmes, c'est quand même des 10 véhicules, donc c'est 10 guides de Touareg qui seront présents dans les véhicules au cas. Voilà.
Oui,
et puis, l'avantage, ils ont aussi un téléphone qui est directement relié au service de sécurité, c'est-à-dire à l'armée algérienne. En cas de perte, ils appuient sur le téléphone, il y a un bouton spécial, et ouais. Directement l'armée les repère, et puis l'armée va les extirper au cas où d'un souci dans le désert. Quoi.
Ouais, mais ce que je disais, c'est qu'il y a juste les 20 personnes qui vont.
Non, derrière, il y a tous des équipages. Ça, je te parle des femmes. Hein.
Ouais, ouais.
Ouais, ouais, mais
il a sorti un prix à 10,50 € pour.
Oui.
C'est pour les gens. Voilà. On peut pas y aller, nous.
Mais pourquoi faire toi? Mais t'es un homme, toi.
Ah, voilà, d'accord.
Non.
Bon. Nous, les gens, quoi. Est-ce que
oui.
On peut les suivre et tout, non?
Ouais. Non, ça non. Tiens, je vais poser la question à Amir. Il va m'en dire davantage. Voilà. Oui. Parce que t'as envie d'accompagner?
Non, bah, les mecs, le truc, le vélo, c'est sympa, ouais. Ça. C'est
ah, bah sympa, non, mais bah, le vélo, oui.
Sympa,
bah, et le vélo, c'est Amir qui est le directeur de l'événement. Hein.
Ouais, mais voilà. J'entends bien l'histoire.
Ouais, ouais. Non, mais tu vas voir, c'est un groupe ouais. Qui a décidé de mettre en valeur tout simplement le désert algérien
bah oui,
et puis permettre aux gens de découvrir vraiment des paysages du rêve. Et puis là, c'est en période d'automne et d'hiver comme ça,
ouais.
C'est sûr que c'est des paysages à couper le souffle. Quoi.
Ah, bah oui, je connais bien moi. Oh là là.
Ouais, moi, cher Nasser, comme tu connais, on va marquer une première pause juste après. On va retrouver également Amir. On va savoir dans quel coin d'Algérie il est aujourd'hui. À tout de suite.
Foot de sport revient dans un instant sur Beurre FM. Jusqu'à 20h. Foot de sport sur Beurre FM. Les dossiers de Foot de sport.
Dans les dossiers de Foot de sport aujourd'hui, on fait un petit tour du côté du désert algérien avec ces deux événements. D'abord, le raid des deux Tassili du côté les deux Tassili, la Agar et le Nadjer, donc avec une épreuve qui a lieu du 4 au 10 novembre prochain. Je vous rappelle, c'est 100% féminin. Bon, parce qu'il y en a ça, elle n'arrête pas de me poser des questions. Mec,
Non, je te parlais du vélo. Un vélo. Enfin, pas un truc féminin, moi.
Non, le vélo, il est là. Et en plus, c'est Michel Bizot. Il va t'en parler. Il connaît très bien le désert algérien. Il connaît très bien l'Algérie. Michel Bizot, il est dans la région, on va dire, d'Aix-en-Provence, hein, pas loin. Je vais le saluer. Michel Bizot, bonsoir. Merci d'avoir accepté de répondre à l'invitation de Beurre FM.
Salut, Mourad. Bonsoir.
Malheur, franchement, ma première question, je pense que tu devines, on va commencer par d'abord par te présenter à nos auditeurs. Tu es quand même le directeur de Raid Parcours Aventure, donc tu es co-organisateur de ces événements avec Toufiq Bourali et avec Amir de Ama Aventure. Donc vous êtes, trois organisateurs. Pour des événements dans un endroit magique qui est le désert algérien.
Oui, exactement. Alors, le désert algérien, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Quand tout le monde me disait « c'est le plus beau du monde », j'avais quelques difficultés à le croire. Et puis, quand je suis arrivé, que j'ai vu les dunes, la région de Taman Rasset, j'en profite pour saluer Toufik et Amir. Oui. et surtout l'envie de faire quelque chose en Algérie et avec les Algériens. Mmh. Voilà. Donc ça a commencé par, en 2014 par des rallye raids. Mmh. Et petit à petit, nous avons appris à connaître le désert, à organiser, à travailler avec l'Algérie. Et aujourd'hui, tout ça va se clôturer par un événement cycliste. Ouais. C'est pas tout à fait notre domaine, mais avec Toufik et Amir, oui, nous avons énormément d'expérience d'organisation. Chacun a vraiment sa partie et ça va se décider. Mmh. Tu sais, il faut savoir une chose, c'est que dans le milieu du rallye raid, comme dans le milieu du vélo,
oui,
lorsqu'on dit Algérie, il y a les yeux qui s'allument.
Oui.
Et tout le monde a envie de venir en Algérie. Tout le monde.
Mais
ouais, on voilà, leur donne la possibilité de venir.
Oui, bien sûr. Ils le font. Justement, oui, alors d'abord, avant de développer un petit peu tous ces événements, comment est venue cette idée de faire le tour comme ça dans le désert algérien à vélo? C'est quand même très spécial comme épreuve.
Oui. Alors, il faut dire que le vélo, c'est véritablement aujourd'hui, je dirais pas que c'est à la mode, mais c'est dans l'air du temps.
Oui.
J'ai été stupéfait de découvrir le monde du vélo et de m'apercevoir qu'il y avait des participants qui étaient capables de faire 80, 100 kilomètres de piste dans la journée. Mmh. Et pourquoi pas leur offrir un parcours extraordinaire. Ouais. Ça sera au mois de février, c'est la région de Tamanrasset. Là, on a des endroits fabuleux, il y a le Hogar. Il y a le Tassili-Nadjer, il y a la Sécrème,
oui,
bien sûr, il y a le Sahara, il y a les pistes, ça monte, ça descend, il y a des endroits qui sont... Et surtout les paysages. Mmh. Les paysages et l'accueil.
Oui.
N'oublions pas l'accueil, parce qu'on va certainement parler de sécurité, on va parler accueil, on va parler du déroulement. Alors l'idée, elle était toute simple. On a envie de faire quelque chose à Tamanrasset, on a envie de faire briller Tamanrasset et l'Algérie. Pourquoi pas les vélos?
Et d'ailleurs, Michel, tout à l'heure, Toufik me disait que, par exemple, en termes de sécurité, aujourd'hui, l'Algérie, surtout les concurrents, sont équipés d'un téléphone qui a une puce qui est reliée directement au service de sécurité et à l'armée. En cas où un concurrent se perd ou il a des soucis, eh bien, on va dire que l'armée intervient très très vite pour sécuriser le concurrent.
Oui, oui, nous avons l'expérience avec les rallye raids, parce que les derniers rallye raids, on était quand même plus de 400, donc ça fait quand même beaucoup de monde.
Ah, c'est beaucoup. Alors, 400,
ouais, c'est énorme, mais ça c'était des rallye raids. Bien, maintenant, en ce qui concerne le vélo, bien évidemment, il y a l'armée que nous remercions. L'armée, n'oublions pas la gendarmerie.
Oui, bien sûr.
Qui est toujours très présente. Au point de vue sécurité, environnementale, dirons-nous. Donc, oui, l'armée est là, la gendarmerie est là, et nous ont toujours aidés, toujours, ils ont toujours été là quand on avait besoin. Et à ce niveau-là, je remercie également le gouvernement algérien qui met à notre disposition... armée et Algérie. Bien. Mmh. Et puis, il y a la sécurité sur l'événement.
Oui, bien sûr.
Alors là, nous aurons sur le parcours, il y aura trois ambulances, trois médecins réanimateurs, la possibilité de mettre l'hôpital de Tamanrasset en alerte dans le cas où il y aurait une chute, parce que malheureusement, ça peut se produire. Sur le plan technique, il y a des équipes de techniciens mécanos qui savent monter et démonter un vélo, donc il n'y a aucun problème, il y aura de l'assistance, et sur tous les parcours, sur toutes les étapes, il y aura des postes de ravitaillement qui nous permettront de pouvoir ravitailler les gens en eau, en fruits, en biscuits, en barres énergétiques, etc. Et le clou de la sécurité, chaque participant sera équipé avec une balise de géolocalisation, ce qui nous permettra en permanence de savoir où se trouvent chaque participant.
Michel, tu sais que dans la semaine, j'ai eu l'occasion de discuter avec toi, notamment quand on est dans le désert, parfois on est confronté aux aléas de, on va dire, géologiques ou même climatiques, enfin, les deux réunis, et on peut dire qu'un accident est vite arrivé. Et puis pour se faire dépanner, c'est très très compliqué. Et si on est loin de tout. Alors, toi-même, en tant qu'ancien concurrent, tu as eu une aventure et que tu as été dépanné par un Algérien. Il a trouvé ce qu'on appelle, l'huile algérienne. Vous savez, pour l'huile pour graisser les moteurs, etc. Mais là, c'est une huile spéciale. Je veux juste la faire découvrir à nos auditeurs et puis à mes deux confrères là ici, à mes deux collègues, l'aventure que tu as vécue. Et c'est la première fois de ma vie que j'entends parler de l'huile algérienne, mais pas au sens où on l'imagine. Je t'écoute, Michel.
Oui, je vois à quoi tu as affaire à l'huile.
Ouais, ben oui.
Alors, il faut savoir une chose, c'est que lorsque j'ai commencé à faire une tentative d'apprentissage en arabe,
oui,
la première phrase que j'ai apprise, c'était « Makash Mouchki ». Sur la base de cette phrase,
oui,
eh bien, je m'engage dans le désert sans problème, parce que je sais que s'il y a le moindre problème, j'aurai toujours une assistance. Donc, ça se passait pendant des reconnaissances, avec mon véhicule de désert,
oui,
et j'ai un problème de pont avant.
D'accord. Bien,
ça nécessitait une soudure, donc mon guide Touareg m'amène dans un village chez le forgeron, qui je réveille pendant la sieste, et qui me dit « pas de problème, t'inquiète pas, donc ma cache mouchkine, et je vais te faire la soudure qu'il faut pour réparer ton pont ». Ok, il fait la soudure, il n'y a pas de problème, etc. Mais à la fin,
oui,
toute l'huile du pont avant avait disparu, elle était partie.
Oui.
Donc je lui dis, oui, mais attends, il faut mettre de l'huile maintenant. Et il me dit, mais de l'huile, j'en ai pas. Comment ça, tu n'as pas d'huile? Non, je n'ai pas d'huile, mais j'ai une solution. Il appelle deux gamins qui étaient à côté, là, il leur donne un seau à chacun, il leur parle en Touareg, hein, et puis les gamins s'en vont. Il revient 20 minutes après avec des bananes. Ah bon? Et puis des bidons. Eh bien, tu le croiras ou tu le croiras pas,
oui,
tu le croiras. Dans les bidons, dans les seaux, ils m'ont fait un mélange de bananes écrasées avec de l'huile d'olive.
Oui.
Et ils m'ont mis tout ça dans le pont avant.
D'accord.
Ça fait 4 ans. Et j'ai toujours ce mélange dans mon pont avant. Et il m'a dit, et si jamais tu as un petit bruit dans le pont avant, rajoute de la sciure et je t'assure qu'il n'y aura plus de bruit. Voilà, ma cache mousquille.
Non, franchement, la serre, c'est pas le...
Ah, c'est la vraie débrouille. C'est la palme.
Et c'est là qu'avec Michel, j'ai entendu parler de l'huile algérienne. Voilà.
Voilà, l'huile du désert.
Ouais. Et pendant 4 ans, le pont, il n'a pas bougé ni rien.
Tu sais, ça fait plus de 20 ans que je vais en Algérie, oui, avec des participants, et que je suis assez souvent dans le désert, du côté de Djanet, Amanrasset, Ilizi, etc., tous ces secteurs. Chaque fois qu'on a eu un souci, il y a toujours eu des solutions.
Ouais.
Toujours, toujours, toujours. Soit avec nos accompagnants, soit un gars qui passe sur la route et qui s'arrête en disant « t'inquiète pas, on va pas te laisser là », etc. Toujours, toujours, toujours.
Mmh.
Et pour ça, moi j'invite les gens à venir en Algérie et apprécier le désert, apprécier l'accueil, apprécier les Algériens. Ils se mettent vraiment en quatre pour nous venir en aide. Et on voit pour l'histoire du Haut-Garbaïk, pour le Haut-Garbaïk,
ouais,
ça a été pareil. Tout de suite, ça a été l'enthousiasme.
Je le rappelle quand même, Michel, hein, c'est du 11 au 19 février 2023, le Haut-Garbaïk sur la base de, je crois, 8 étapes, il me semble. Là, c'est ça, ou 7.
Oui, exactement. Ouais. Des étapes qui vont faire entre 50, 60, 80 km pour la Sécrem.
Oui.
Il y a deux catégories. Il y a une catégorie challenge, où les gens viennent pour balader.
Oui.
Il n'y a pas de notion de vitesse ni de compétition, mais ils sont dans le cadre d'une grande organisation. Et puis, il y a la catégorie course, où là, il y a un chronométrage, il y a un classement, et à l'issue, tous les jours, il y a un classement avec un podium, premier, deuxième, troisième, etc. Il y a la remise d'un maillot jaune, qui ne sera pas jaune, mais enfin pour le leader.
Oui.
Et à la fin de l'épreuve, à la fin de l'événement, eh bien, il y aura un classement général où il y a un premier, un deuxième, un troisième qui seront nommés avec des diverses catégories. Et tout ça à vélo, bien sûr.
Oui, justement, Michel, alors, quelle est la catégorie de vélo qui retourne à, tu m'avais parlé de VTT, mais souvent c'est des VTT électriques, leur transport, comment cela va-t-il se produire? Parce que transporter autant de vélos électriques, par exemple, dans un avion, est-ce qu'il n'y a pas un risque ou d'une fonte des batteries. Voilà.
Oui, alors les vélos électriques ne seront pas admis dans la partie course, bien évidemment. D'accord. Parce que ce sont que des vélos musculaires. Concernant les vélos électriques, il faut en tenir compte parce qu'il y en a de plus en plus. Et puis, tu as certainement des participants qui viendront venir avec. Alors, nous transporterons les vélos hors batterie. Et chaque participant devra faire son affaire avec la batterie.
D'accord.
Transporter parce que on peut, à la limite, transporter une batterie en avion en individuel, mais pas groupée en soute dans un conteneur.
D'accord.
Voilà. Ouais. Ça, c'est la règle. Alors, ce sera des VTT, il y aura des grabeurs, il y aura toutes sortes de VTT qui seront en course, qui seront en compétition s'ils le souhaitent. Vélos électriques. Quelques vélos électriques nous ont fait savoir qu'ils viendraient. On les accueille, bien sûr, avec beaucoup de plaisir. Alors, le déroulement, ça sera très simple. Il y aura une adresse en France où chacun enverra son vélo démonté dans un carton de transport, puisque ça existe, les cartons de transport pour les vélos. De là, nous regroupons la totalité des vélos, partent par container sur Alger. Sur Alger, ils sont mis sous douane. Et puis, les participants retrouveront leur vélo en arrivant à Tamanrasset, pourront les remonter avec l'aide de l'équipe technique. Et nous pourrons donner à ce moment-là le départ. Notre équipe technique sera dirigée par Hervé, qui a fait trois fois, je crois, le championnat du monde de VTT, qui est très technique, qui connaît bien les vélos, qui vit toute l'année dans les vélos VTT. Et la plupart des participants sont sûrs qu'auprès d'Hervé, ils auront des conseils et ils auront de la technique. Et pour le retour, c'est l'inverse. On remettra tout en conteneur dans les cartons. Alger, douane, on ramène les vélos sur la France, et là, il y a deux solutions. Soit le vélo est renvoyé directement au domicile du participant, mais moyennant un petit supplément.
Oui, bien sûr.
Eh bien, ils pourront venir le récupérer directement chez eux.
En tous les cas, ce qui est certain, mon cher Michel, c'est que je reviendrai plus tard vers toi, vers Toufik et vers Amir, vers le mois de janvier, puisque ce Hogar Bike, lui, démarre du 11 au 19 février prochain. Et puis on reviendra aussi sur les conditions de participation, s'il y a sûrement des bons à remplir, etc. Et puis aussi le coût de l'opération. Combien coûte, par exemple, la participation à ce Hogar Bike 2023?
Alors je vais surtout te dire ce qui est pris en charge.
Oui.
C'est-à-dire que les participants auront en charge uniquement l'avion entre leur lieu de résidence et Alger.
D'accord.
À partir d'Alger, il y aura un regroupement. Et nous les prenons en charge de Alger et Tamanrasset, l'ensemble de l'organisation, parce qu'il y aura tracé, il y aura roadbook, donc tout ça c'est un, les bivouacs, les hébergements, tout ce qui est douche, etc., etc., et ramener les gens chez Alger.
D'accord.
Voilà. Et de là, ils auront leur billet d'avion, bien évidemment, pour leur lieu de résidence. Bon. Donc Alger, Tamanrasset, Alger. Et tout ça, c'est pris en charge.
Par l'organisation.
Voilà. Donc, au point de vue prix, eh bien, en catégorie challenge, on est à 2 200 €. Et en catégorie course, on est à 2 350.
D'accord.
Voilà. Oui. Ce qui est un prix qui est un prix normal.
Oui.
Compte tenu du fait que les prestations sont quand même nombreuses. On fait manger les gens dans le désert, on les loge, on assure leur sécurité. On les cajole, on est là. Il y aura certainement des animations. Voilà, il n'y a plus qu'à venir. Alors, surtout, je voudrais signaler le site, puisque nous avons un site qui s'appelle...
Oui, c'est important, bien sûr. Ouais.
Hogar, H-O-2-G-A-R Bike,
oui.
B-I-K-E,
.com. Oui.
Voilà, hogarbike.com. Là, vous avez tous les détails. 320 km au total. Des étapes de 40, 50, 60 km en fonction de la difficulté des équipes. Et pour cela, nous allons... des étapes, pardon. Et nous allons récupérer une période en novembre, fin novembre, pour finaliser toutes les reconnaissances. Et nous pourrons à ce moment-là donner l'altimétrie, l'état des pistes par rapport aux étapes. Est-ce que c'est du sable? Est-ce que c'est du caillou? Est-ce que c'est du rocher, etc. De façon à ce que les futurs participants puissent s'équiper en conséquence, au niveau 4, etc.
Michel, avant de te libérer, dis-moi, combien y aura-t-il de participants, ou combien espérez-vous de participants à ce Hogar Bike?
Je te ferai une réponse bidon, je vais te dire le maximum.
Oui, bon, c'est la réponse.
Mais bon, si déjà on arrivait à avoir une cinquantaine de participants, oui. ça serait déjà merveilleux.
D'accord.
Mais, on a fait des mailings un petit peu sur toute l'Europe.
Mmh.
Voilà, on compte beaucoup sur l'Algérie pour nous amener du monde. Venez. Ça va être sympa, vous allez découvrir, surtout pour ceux qui ne connaissent pas l'Algérie, venez en toute sécurité. Voilà, ça j'y tiens absolument, parce que c'est la première question qu'on me pose.
Ah d'accord, ah, ouais.
La sécurité.
Ouais.
Ben, la sécurité, elle est assurée.
Oui. Ça je peux vous confirmer. Êtes... Ouais. Oh, non, j'ai déjà eu l'occasion de faire des événements comme ça en Algérie. Quand l'État vous met les moyens sécuritaires... Vous pouvez travailler tranquillement, ouais, c'est vrai.
Mais complètement. Et puis, je leur dis bien sûr que s'il y avait des problèmes en quoi que ce soit, eh bien, ce n'est pas en Algérie qu'on irait organiser, c'est ailleurs.
Ouais.
Donc, ça fait 20 ans qu'on organise en Algérie. Depuis 2014, on y va d'une manière régulière. Et les gens qui reviennent en disant, mais attends, on n'a jamais vu ça, nulle part. Et je ne citerai pas d'autres pays, mais on est largement au-dessus en Algérie.
Ouais.
Quand on m'a dit... du côté de Tamar Rassiette, elle est d'une des plus hautes du monde. J'ai dit, attendez, il ne faut pas rigoler. Ben ouais, ben venez les voir. Venez.
Michel, un amoureux de l'Algérie, un amoureux du désert algérien, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que
merci
vous êtes co-organisateur de l'événement également. Vous êtes directeur de Red Parcours Aventure. Vous êtes dans le sud de la France, donc le climat méditerranéen et saharien, vous le connaissez. Merci, oui. À bientôt sur notre antenne.
Merci, à bientôt. Merci et au revoir à tout le monde.
Merci.
Foot de sport revient dans un instant sur Beurre FM. Jusqu'à 20h. Foot de sport sur Beurre FM.
Bon. Allez, dernière partie de ce foot de sport. Bah, j'ai essayé d'avoir mon cher Amir. J'ai composé le numéro, mais on m'a dit que. Je me suis trompé, pourtant c'était le bon numéro. Bon, si Amir, tu m'entends, merci de me le rappeler via on va dire WhatsApp, puisque Michel me l'a redonné. J'ai composé le même numéro que celui avec lequel j'ai eu le contact avec toi. Ce n'est pas passé, c'est pas grave. Donc là, je reviens. D'abord, je prends Mahalès qui était là depuis tout à l'heure. Bonsoir Mahalès.
Bonsoir moi. Coach. Bonjour Sophia.
Salut Mauro.
Ça va bien?
Et toi?
J'espère que très bien. Bonne semaine.
Alhamdulillah.
Bon, déjà là, je suis sur les. Du Barça, je suis sur les. Qui l'a dit. Zid Bilbao.
Ça coupe, hein? Oh là là, on n'entend pas. Mahrez, on entend mal, hein?
J'ai dit que je vais consoler avec le monsieur qui l'a dit les bananes.
Ah oui, oui.
Ah oui, t'as vu les bananes et.
Ah oui, non, mais. Ah oui, là.
Les huiles d'olive.
Ah oui.
Non, mais.
Je vais l'essayer, hein.
Non, mais ah, oui. N'empêche que son pont, ça fait 4 ans qu'il l'a réparé comme ça dans le désert. Toujours. Ça marche toujours en Mahrez.
Ah bah, quand je vais. Une voiture, je vais essayer de dire que ça passe.
Ben oui. Donc, voilà.
C'est incroyable, hein.
Ouais.
Je crois que je vais la mettre dans l'huile à moteur, Wahanda.
Ben écoute, en tout cas, je te. Voilà, Mahalès, je t'ai gardé, c'est pour voilà, c'est pour avoir la leçon de l'huile algérienne. Il y a une...
Ah, j'espère demain qu'elle est pas là, comment ça s'appelle, elle pile les mitons, elle se fait la fête mondiale.
Et à la Belek, tu sais ce qui va se passer? Mais tu vas mettre en faillite tous les fabricants d'huile à moteur.
je vais leur dire, c'est fini, je vais donner des dates. Mais lui, dans la banane, c'est... Tu vois qu'on peut être l'Algérie, on peut être intelligent.
Mais bien sûr.
Ah, mais je vais... Ouais. On pourrait un live sur YouTube, je vais l'inviter, celui-là, pour me donner son nom.
Non, il n'y a pas de souci, je te laisserai ses coordonnées, tu verras, il n'y a pas... Non, puisque... il habite dans le sud de la France. Hein.
Ouais.
En fait, depuis qu'il lui ont dépanné son camion, il n'a plus touché. Hein.
Ça serait bien, tu fais comme ça.
Ouais.
Tu peux... Dans les semaines, ça met des gens comme ça pour connaître mon âge parce que c'est très intéressant.
Oh là là, Mahalès, oh là là, ça coupe, ça coupe.
Ouais.
Tiens, même en plateau, on n'entend plus
là,
rien.
Vous entendez
Non, attends. Ce que je vais faire, c'est que là, je suis en direct avec l'Algérie. Je vais te mettre en attente pour prendre Et j'espère que Amir de Amae 20 est avec moi. Bonsoir Amir.
Oui, bonsoir.
Oui, mais désolé parce que j'ai essayé puis je suis tombé sur une personne qui m'a dit bon, bon, comme on dit, le khiyout n'était pas au bon endroit.
Ouais.
Bon, mon cher Amir, j'ai eu tout à l'heure Toufir, j'ai eu également Michel qui m'ont parlé de ce grand événement. Toi-même, tu es donc le directeur de l'événement, ce qu'on appelle l'événement du Ogar Bike, qui aura lieu en février prochain. Oui. Tu participes aussi à l'événement là, du tassier, ce qu'on appelle le raid des deux tassiers pour les femmes. Voilà. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus par rapport à cet événement, parce qu'on va découvrir le désert à vélo.
Pour le Ogar Bike, donc, parce qu'on est un collègue et partenaire, donc vous en un petit peu expliqué, surtout le chef, donc il sait bien, il a bien détaillé un petit peu la chose. Donc, comme on est déjà dans tout ce qui est rallye raid, donc on est organisateur de tout ça depuis longtemps, donc l'idée est venue, étant donné la tendance, comme l'a dit Michel, donc de ces VTT, on s'est dit pourquoi ne pas leur créer un événement qui est pour eux et où ils viennent et ils peuvent un petit peu, c'est-à-dire développer beaucoup plus leur passion.
Oui. Amir, si tu peux bouger très légèrement, parce que des fois la liaison n'est pas top. Oui. Voilà, c'est du direct. Nous sommes en radio, on fait du direct, on s'arrange comme on peut. Parce que sur un tel événement, ce sont beaucoup les Européens qui ont cette culture du vélo, qui ont besoin de découvrir des lieux à forte sensation, c'est ça. Tu m'as entendu, Amir? Allô? Amir? Bah, tu vois, donc, oui, Amir, est-ce que tu m'entends?
Oui, je vous entends. Bon.
Donc, je disais que vous avez décidé de on va dire, d'offrir donc aux concurrents européens qui ont la culture du vélo, parce qu'ici, le vélo, le VTT, etc., et tout, se développe à vitesse grand V. Et donc, il y a peut-être aussi des concurrents qui cherchent ce que j'appellerais des sensations fortes. Et avec ce que vous proposez dans le désert algérien, eh ben, je pense qu'on ne peut pas rêver mieux, quoi.
Oui, effectivement, parce que l'endroit choisi pour cet événement, il est dédié beaucoup plus aux passionnés de l'aventure.
Oui.
Donc, c'est beaucoup plus que dans ce. C'est vrai qu'il a un caractère, donc c'est un événement qui est un événement de raid. Il a un caractère touristique en VTT.
D'accord.
Donc, le caractère en VTT est beaucoup plus pour aussi garder l'aspect, c'est-à-dire le. On peut faire aussi un touristique pour respecter la protection de l'environnement lui-même.
Bah ça, c'est très important, parce que le désert, on aime le désert, mais entre nous, mon cher Amir, si c'est pour le polluer, c'est pas la peine.
Voilà, effectivement. Ouais. Surtout des endroits pareils.
Oui.
Donc, on voulait faire découvrir ces endroits, mais il fallait trouver un événement qui a une passion d'une certaine catégorie de personnes et des passionnés du VTT, en même temps donc le faire découvrir le côté touristique de la région, et tout en restant dans la protection de l'environnement, sachant que comme c'est une région, il y a beaucoup donc, de sites archéologiques et autres. Donc là, on voudrait bien que ces sites-là soient protégés et respectueux respectés. Voilà, en quelque sorte, l'idée qui a englobé le.
Oui, mais Amir, malheureusement, je dois te ramener à mettre fin à cet entretien, parce que la liaison est très très mauvaise. Donc il y a beaucoup de paroles qui ne sont pas passées. J'aurais aimé avoir une liaison un peu plus propre. Il y a quand même des choses intéressantes, notamment la protection de l'environnement, le fait de faire appel à des VTT plutôt qu'à des véhicules. Donc tout ça, c'est des éléments indispensables, parce que c'est un site d'histoire. Il y a aussi de la préhistoire dans ces sites. Et les protéger, c'est important de passer par le vélo que par la voiture. Voilà. Merci beaucoup, Amir. Je suis désolé, parce que là malheureusement, la liaison n'est pas vraiment au top. On essaiera la prochaine fois à partir d'une ligne fixe d'avoir, on va dire, une meilleure communication. Merci beaucoup, bonne soirée. Eh ben oui, je suis désolé, c'est un peu dommage. En tous les cas, moi j'ai compris, Nasser, c'est que le choix du vélo, c'est pour protéger le site.
Ah, c'est une belle initiative, ça. Hein. Ouais. On est dans la nature, on est dans l'écolo et on est dans les réalités de la problématique de la planète. Donc, tu l'as bien dit tout à l'heure, tu as été très précis, c'est que le Hoga, c'est pas n'importe quoi. On a des lieux sur la planète où il ne faut pas rigoler avec ça. Parce qu'il y a une histoire, il y a notre histoire, et on ne va pas y mettre du gasoil qui passe là-dedans, quoi. Ouais. On préfère des vélos et avec des gens qui viennent faire des randonnées. Je ne sais pas si demain ils vont organiser des randonnées, mais ça doit être sympa aussi, ça. Hein.
Ah oui.
Ça doit être très très bien, cette histoire-là. Hein.
La marche à pied, tout ça, etc.
Ah oui, bien sûr, surtout dans ces moments-là. Bon, ils vont passer en vélo, ils vont passer peut-être en char à voile, ou je ne sais pas quoi, ils vont sortir un truc. Mais bon, puisqu'ils rentrent dans le naturel, qu'ils respectent la nature, qu'ils respectent notre identité et notre histoire, c'est bien qu'ils s'en occupent réellement. Et c'est bien parce qu'ils le disaient. Hein.
Oui, absolument. Ouais,
ils font très très attention à ça.
Ouais,
ouais. Ça, c'est quelque chose de très important. Hein, Fodil ?
Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi.
Bon, ben, Fodil, on va te financer un vélo, tu vas participer.
Je dirais pas non.
J'ai bien mis là, j'écoutais, c'est vachement attirant. Hein.
Ouais.
Un vélo, pris en chat, tu vois. Mais bon, moi, le sable,
coach, t'es entraîneur de foot.
Oui, j'ai tout fait, mais je me suis tapé, moi, les côtes, les dunes à Tarit.
Oui, ah oui.
Ah, t'en as une devant toi,
oui.
Tout le monde rigole quand t'arrives. Tu dis, oh, je vais la faire.
Oui.
Vas-y, grimpe, tu vas voir.
Mais t'es toujours courir.
Pourquoi ? Elle est haute ?
Elle est haute, et le sable dans ton pied. C'est pas comme dans les films, hein.
Oui.
Bah, grimpe, tu vas voir. Grimpe, tu vas voir.
Bon, très bien. On arrive quasiment à la fin de cette émission. En tout cas, je sais qu'il y a Samia qui a essayé aussi de me contacter, mais malheureusement, je ne peux pas aussi. Bon, ça va, j'ai eu la chance d'avoir Michel Kaman depuis Aix, où la liaison était bien meilleure. Un petit peu correct avec Toufir, même s'il était à Tamal Rasset. Ouais. Là, visiblement, avec Amir, c'est un peu dommage parce qu'il a. On avait abordé le volet protection de l'environnement qui est très très intéressant. En tout cas, je reviendrai vers eux ultérieurement, sûrement vers le mois de janvier pour le deuxième événement. Je parle du Hoga Bike puisqu'il a lieu du 11 au 19 février 2023. Mais en attendant, le premier événement, je le rappelle, c'est le raid des deux Tassili réservé exclusivement aux femmes, 100% féminin, qui démarre, lui, le 4 novembre prochain pour se terminer le 10, hein, je vous rappelle. C'est une découverte, mais il n'y a pas de chrono là-dessus. Peut-être une dernière info foot avant de se quitter. Vous qui aimez le foot, forcément, tout à l'heure, Mahrez était malheureux. Non, je ne parle pas du footballeur, non. Je te parle de Mahrez, notre auditeur, qui était malheureux parce que le Barça a été battu par le Real. Fodil qui était content parce que c'est le Real qui a gagné. Le coach aussi, il faut dire la vérité.
Non.
Ah, si, cool.
Real Barça, pour moi, c'est la même.
D'accord. Et puis, donc, on a aussi le match de City contre Liverpool. Donc, il n'y a que Fodil qui peut me donner, n'est-ce pas, ce qui s'est passé dans ce match City-Liverpool.
Défaite pour les Citizens, 1-0.
Ah, c'est. Ah oui.
Victoire de Liverpool.
Voilà. Victoire de Liverpool. Riyad Mahrez n'a pas été incorporé pendant le match.
Du tout, il était sur le banc.
Il était sur le banc, il n'a pas fait d'apparition tout au long du match, malgré la défaite.
Ah oui, malgré la défaite. Et Haaland n'a pas marqué.
N'a pas marqué.
Bon.
Duel gagné par le défenseur néerlandais Virgil van Dijk.
Voilà. Donc là, super, je reçois une superbe image. Ah, c'est une photo de Samia dans le désert. Elle est là, c'est notre Samia, elle est là.
En revanche, Belaïli... Ouais. A participé aujourd'hui, ouais. À 15 minutes. Il a fait une passe décisive, ouais. Et je vous invite également à regarder les deux petits crochets où il a fait danser la défense troyenne.
Alors, juste avant de se quitter, quand même, il y a un certain Paris-Marseille, hein, c'est chaud bouillon ce soir.
Ah, oui.
Je le sais, vous l'attendez. Mais derrière ce match. Il y a eu toute la semaine polémique, Mbappé partira pas, finalement, tous les jours on nous sort une histoire. Moi je pense qu'un gamin de 23 ans qui commence à sortir des histoires comme ça, bon c'est bof, ouais. Il faut qu'il prenne exemple sur Messi, c'est tout.
Et juste pour une petite information, Mohand, les compositions viennent tout juste de tomber. Pour le Paris Saint-Germain, nous aurons Donnarumma dans les buts, Hakimi, Marquinhos, Danilo, Bernat, Verratti au milieu de terrain avec Vitinha, Fabien Ruiz, Messi, Mbappé et Neymar. Du côté de l'OM, Lopez dans les buts, Mbamba, Bailly, Bellarbi, Klaus, Ornier, Verretou.
Bellarbi, tu veux dire Bellardi?
Bellardi, ouais. Bellardi, voilà. Nuno Tavares, Guendouzi, Sanchez et bien sûr Harit.
D'accord. Bon.
Ouais. Paris va.
Quoi? Qu'est-ce qu'il y en a sur Paris va?
Bah, Paris va.
Tu crois?
Ah, je pense, ouais.
Mais ouais, tu penses?
On va mettre tout en place.
Bon. Si tu le dis. Ok, très bien.
Je pense.
Bon. Tu le penses?
Moi, je tablerai pour un match.
Ce que tu as dit tout à l'heure, tout ce qui s'est passé comme pression toute la semaine.
Oui, oui.
Un moment, il faut bien que tu déverses et tu. Montrez-moi, il y a un moment, un match comme ça aujourd'hui.
Où les grands joueurs vont sortir le gaz qu'il y a dans le corps, c'est ça?
Je pense. Puis avec la frustration de Benfica et tout
aussi,
il y a une grosse frustration qui est née. Donc après, il faut qu'ils se libèrent de tout ça ces jours-là. Bah, Mbappé, comme certains, hein. Quand tu vois Mbappé, bon, on va arrêter de polémiquer sur un garçon que quand il respire ou il donne un coup d'œil, on est en train de lui faire tout un montage. Là, c'est un truc de fou. Ouais. C'est lisible.
Moi, en tout cas, je tablerai pour un match nul ce soir.
Bah, rien de le match.
Très bien. Bah, écoutez, merci. Merci à coach, merci à Fodil. On a passé un bon moment ensemble. Oh, en tout cas,
tu nous as fait rêver avec le désir. Hein.
Bah, bien sûr.
Ça m'a donné envie de partir en Algérie.
Ben oui, non, mais c'est vrai, t'as raison. Ça donne envie, ça fait rêver. En tout cas, nous, on se retrouve dimanche prochain, 18h-20h, sur l'antenne de Beurre FM. Salut. N'oubliez pas, Power Arrive à 22h minuit. Et
spécial Cheb Mami. Avec
merci, spécial Cheb Mami. Et demain, on finira avec quoi? Avec une grosse matinale, mon cher Fodil, puisque tu vas dormir très, très peu.
Exactement. Et je serai d'attaque avec Kim Mona pour la matinale. Et ensuite, il y aura beaucoup d'événements demain, dont le 17 octobre 61. Il y aura une chronique aussi qu'on traitera pendant la matinale avec DJ Kim et Mona.
Très bien, merci beaucoup mon cher Fodil, et puis donc rendez-vous dimanche prochain, puis toi, dès demain 6h.